Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, comprendre l'actu sans jamais oublier d'en rire, se cultiver sans se choper une méningite, c'est l'objectif de l'équipée sauvage, une arène où les meilleurs journalistes de la rédaction s'affrontent chaque après-midi. Celui dont le papier vous aura le plus interpellé sera élu chroniqueur du jour, combat impitoyable donc pour vous séduire car vous votez via Twitter et Facebook, mais aussi pour séduire nos invités dont le vote comptera triple. Et cet après-midi, on n'est que le 27 août, c'est seulement le deuxième numéro de l'équipée sauvage, et déjà, alors que j'avais dit moi je resterai corrosif, méchant, cynique, déjà je commence à me sentir possédé par l'esprit de Michel Drucker. Au moment d'accueillir deux artistes formidables, dont le film que j'ai vu hier m'a laissé sur le huc, pour reprendre le phrasé de ses collégiens de Seine-Saint-Denis dépeint dans le film. Oui, comme Drucker roucoulant devant Lynn Renault, je ne peux pas dire autre chose. Ils sont formidables. Mehdi Idir et Grand Corps Malade, réalisateurs de La Vie Scolaire, sur vos écrans demain, sont nos invités. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Je crois qu'on peut y aller là-dessus.
Voilà, voilà.
À bientôt, c'était cool.
C'était bien. Vous, à J-1, messieurs, vous devez être stressés. Nous, on est juste séduits. Eva Rock, ma complice ici présente, vous le confirmera. Bonjour
oui.
Eva.
Bonjour à tous. Et effectivement, ben, coup de poing et coup de cœur.
Et on n'a pas vu le film ensemble, mais on a ressenti un peu les mêmes choses. On va en parler ensemble de ce film, La Vie Scolaire, qui retrace donc le quotidien d'un collège de Seine-Saint-Denis où les tensions, mais aussi les vannes, fusent sans cesse. Ce qui n'est pas justement sans rappeler notre émission, dont le principe même est de s'envoyer des scuds, car entre les journalistes en compétition aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul vainqueur, ça va être une véritable boucherie. Je vous présente déjà Mathieu Charrier et Anis Mbida, deux styles de physique que tout oppose. On n'a dit rien du tout, c'est moi qui décide. Mathieu Charrier, expert cinéma d'Europe 1 qui a visité pour nous le nouveau musée Louis de Funès et qui pense être en mesure de nous apprendre quelque chose de nouveau sur Louis de Funès. Mathieu, ma biche, c'est du bluff ou c'est vrai? On va apprendre des trucs.
Vous verrez bien, je peux vous dire que vous allez apprendre plein de choses.
Ne soyez pas trop présomptueux, car à vos côtés se trouve quand même un redoutable compétiteur. Si tous les geeks avaient son physique, il y aurait plus de meufs aux soirées d'informaticiens. Anissé Mbida est avec nous. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec quel thème allez-vous gagner aujourd'hui, Anissé? Parce que hier, c'était pas terrible.
Hein, contrairement à mon adversaire, j'ai un thème moderne, un thème concernant. Comment préserver nos petits coins de nature quand on fait des photos.
Ah, tiens donc.
C'est moderne.
Vous avez parlé d'Instagram.
Et la nature.
Avant de lancer la compétition, on va donc présenter ce film qu'avec Eva, on vous recommande chaudement. Ça s'appelle La Vie Scolaire, Grand Corps Malade, Mehdi Idir. C'est le deuxième film que vous co-réalisez après Patient, pour lequel vous aviez eu 4 nominations au César. Ma première question est simple, je crois qu'on est de la même génération, on était au collège dans les années 90. Comment vous avez fait pour atteindre un tel degré de réalisme, le phrasé des jeunes, leurs attitudes, tout ça, ça sonne parfaitement juste. Pourtant, le langage a dû changer depuis les années 90. Vous êtes retourné sur le terrain?
Ouais. Le scénario est très écrit, on a vraiment écrit les vannes, on s'est beaucoup amusé avec Mehdi à écrire ces dialogues-là. Et en même temps, on a conscience que, voilà, qu'on vient du collège des années 90 et qu'on est vieux. Et du coup, très rapidement, dès qu'on a choisi nos acteurs, il faut savoir que les acteurs, c'est pas du tout des comédiens. C'est pas des gars qui sortent.
On va arrêter là-dessus deux minutes. Il n'y a aucun des jeunes qui est comédien.
Non, aucun. On les a tous castrés en ce qu'on appelle casting sauvage. La moitié viennent vraiment du quartier où on a tourné.
Ils sont même pas venus faire le casting. En fait, on les a notre directeur de casting les a trouvés sur des terrains de foot.
Casting sauvage.
Mais voilà, exactement.
Et du coup, comme on avait des vrais gars qui venaient vraiment d'ici, on s'est dit, une fois qu'ils s'approprient le texte, on leur a dit, voilà, prenez bien votre texte, mais maintenant, ressortez-le avec vos mots, vos expressions.
C'est ça, ils sont mis en bouche.
Et voilà, d'accord. Exactement. Et on a beaucoup répété justement pour essayer de les mettre en confiance, qu'une fois qu'ils sont dans cette salle de classe, en face d'un prof, etc., qu'ils puissent être eux-mêmes. Donc voilà, je crois que c'était ça le but, qu'ils arrivent, tout en respectant le texte de base, à être eux-mêmes et sortir leurs expressions, leurs vannes, leurs insultes. Il y en a quelques-unes.
que vous avez découvert à l'occasion.
Ouais, les profs aussi insultent. Hein. Les profs entre eux s'insultent.
On va y venir, on va parler de la place des profs et du portrait des profs dans ce film. Un mot de votre tandem, Grand Corps Malade, on connaît votre double casquette, cinéaste, slammer. On va d'ailleurs parler de votre nouvel album, car vous avez une rentrée chargée. Vous, Mehdi Idir, vous êtes un ami de longue date. Ça fait 10 ans que vous réalisez les clips de Grand Corps Malade. Votre amitié, elle remonte encore plus loin. Au collège même? Vous étiez ensemble à l'école
non,
ou pas?
Non, on n'était pas ensemble au collège, mais on était voisins pendant des années. Et un jour, moi, je commençais à la réalisation. Il faisait déjà un peu de slam et j'avais un projet, un documentaire sur des artistes urbains. Et je l'ai rencontré comme ça. C'est sa femme qui nous a présenté.
Ah, tiens donc, on la remercie.
Merci
Julien.
L'humour n'est pas absent du tout du film, au contraire, parce que c'est très réaliste. Il y a des moments un peu noirs, mais l'humour est là. L'humour est la répartie, en tout cas. C'est vraiment une condition de survie en banlieue.
Condition de survie, c'est peut-être un poil fort, mais en tout cas, c'est un art de vivre, ça, c'est sûr. Mmh. Tu peux pas faire un film sur ces gamins-là, dans ces collèges-là, s'il n'y a pas de la vanne. Si... Donc l'humour, c'est pas... Nous, on aime bien rigoler, on aime bien mettre de l'humour dans nos films, mais de toute façon, l'humour, il est présent dans sur ce terrain-là, on était obligé de le traiter.
Oui, on s'aperçoit aussi que les profs, eux, doivent faire preuve de répartie avec ces collégiens, qui pourraient être dans n'importe quel collège de France. Hein. Vous faites pas un film sur la banlieue, hein. Vous avez fait un film sur un collège et sur une CPE, en l'occurrence. Je pense qu'il y a un caractère immuable qui ressort et qui est extrêmement intéressant. Mais effectivement, on sent que les profs, ils ont besoin de répartie parce que sinon, c'est eux qui se font balayer.
La survie, c'est peut-être plus pour
plus pour les profs. Ouais, on le voit avec le prof d'histoire. Je vous invite à voir le film. Il s'appelle La vie scolaire. Il sort demain. C'est mes réalisateurs Mehdi Idir et Grand Corps Malade sont nos invités cet après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures pour rire et découvrir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui désormais chaque après-midi se disputent le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Dans un instant, c'est le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier, qui va ouvrir le bal. Son premier sujet jugé un peu borderline pour l'horaire ayant été retoqué.
Redécouvrir sa sexualité grâce au kung-fu.
Bon, ça a été retoqué, donc Mathieu va finalement nous parler plutôt du musée Louis de Funès qui ouvre ses portes et nous révèle, Dixit Charrier, des choses qu'on ne savait pas encore sur le légendaire Cruchot.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes en compagnie de Mehdi Idir et Grand Corps Malade dont le film La vie scolaire, et je dis qu'il est excellent, je le redis, sort demain, l'équipe est sauvage, j'ai dit qu'il était excellent,
ah bon,
et je le redis, d'accord. L'équipe est sauvage continue, 2 heures éclectiques où l'on apprend et où l'on rit, et parfois les deux en même temps, quand vient l'heure d'écouter Mathieu Charrier. Alors là, je dis attention Mehdi Idir, Grand Corps Malade, vous avez devant vous le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier, qui peut d'un mot, d'un soupir, décider de la carrière de votre film. Vous avez du coup intérêt à voter pour lui, même si sa chronique vous indiffère, il faut jouer stratégique dans cette émission. Mathieu Charrier, cela dit, comme vous, il a dû adorer votre film et même s'y retrouver. Comme vous, c'est un enfant de la rue. Souvent, dans les couloirs d'Europe 1, on l'entend poser des raps qui prouvent qu'il a grandi avec IAM, NTM.
C'est la merguez. Merguez parti.
Ouais, non.
Tout cas de la braise.
Ouais, non, alors oui. C'est, il a plutôt grandi avec les musclés, en fait. Plus probable. Mathieu,
là,
votre heure est venue.
L'autre.
C'est vrai, vous avez grandi avec les deux. Votre heure est venue, c'est le moment de briller. Et pour ce faire, vous nous ouvrez les portes du tout nouveau musée Louis de Funès.
Oui, l'idée, c'était de voir si vous connaissiez tout de la vie de Louis de Funès. Effectivement, ce petit musée, il a ouvert cet été à Saint-Raphaël, juste en face de la gare. Alors, on va faire un petit quiz. Hein. Vous allez essayer de répondre à ces questions. Par exemple, savez-vous quel événement particulier a marqué l'enfance de Louis de Funès? Je ne sais pas si vous êtes fans tous les deux de Louis de Funès, Mehdi Idir et Grand Corps Malade.
On aime bien, mais
vous n'aviez pas de poster de Louis de Funès dans votre chambre d'ado.
Ça va m'aider alors. Bon, quel événement a marqué l'enfance de Louis de Funès?
La guerre.
Figurez-vous que son père a abandonné sa famille et surtout il a fait croire qu'il était mort. C'est assez dingue comme histoire. C'est-à-dire qu'il s'est suicidé faussement dans la Seine.
Ce qui est bien, c'est le rire avec lequel vous le racontez.
J'adore l'histoire. Attendez, vous écoutez la chute. Il était surendetté. Il a laissé un petit chapeau au bord de la Seine.
Non.
Il s'est barré au Venezuela où il a monté un commerce de diamants pour se dire comme ça j'aurais plus de problèmes en France. Sauf que sa femme, la mère de Louis de Funès, est partie le rechercher par la peau des fesses et l'a ramené dans le pays. L'histoire ne dit pas comment elle a découvert qu'il était parti là-bas. C'est un événement qui a beaucoup marqué Louis de Funès. Il en a parlé de nombreuses fois dans les interviews qu'il a données ensuite. D'ailleurs, il y a une photo du père Chaplin à l'entrée du musée. Il n'avait pas l'air très commode, le père Chaplin.
Le père Funès, pardon. Je pense que Chaplin non plus. Deuxième question que vous avez pour nous, Mathieu Charrier.
De qui c'est principalement inspiré pour composer ses personnages?
Eh ben Chaplin.
Eh ben non, sa maman, figurez-vous, qui était une femme très nerveuse, une femme du Sud qui s'emportait très facilement. Il dit qu'il a appris la méchanceté en regardant son visage. C'est assez terrible de dire ça de sa maman. Et en même temps, il faut savoir qu'il l'adorait plus que tout. Il y a une lettre dans le musée qu'il lui a écrite justement au moment où elle était partie chercher son mari qui commence comme ça. Ma petite maman, j'ai reçu ta lettre de la Martinique qui m'a fait très plaisir. Je me porte très bien. Mimi venant tous les dimanches, je me trouve avec une mine épatante. Je trouve les mots assez jolis. Il y a aussi un petit calendrier qui est exposé dans le musée, le calendrier de l'année 1957 avec le 25 octobre qui est la date de la mort de sa maman qui est entourée. Et il a écrit juste à côté « Maman s'en est allée ce jour-là, je penserai à elle toute ma vie ».
Et vous jouez aussi la corde de l'émotion avec Mathieu Charrier.
J'essaie tous les
ça, on ne connaissait pas. Quoi d'autre?
Ça, je pense que vous allez répondre. On laisse nos invités d'abord. De quel instrument de musique jouait Louis de Funès? Non, ils savent
Du violon.
Du ukulélé.
Mathieu, non, du piano.
Du piano, exactement. Ouais. C'est
il était très grand pianiste de jazz.
Il était pianiste de jazz. Et en fait, il a commencé par ça. Sous l'occupation, il jouait du piano toute la nuit dans des bars de Paris pour survivre. C'est-à-dire qu'il, vous savez, il était payé à la gamelle. C'est-à-dire qu'on faisait tourner une petite gamelle dans la salle et il gagnait quelques euros. Il jouait 17h du soir à 5h du matin. Il a raconté que c'est quelque chose, il appelait ça les nuits grises. C'est quelque chose qui l'a énormément marqué parce que Louis de Funès, pour nous, c'est tous une énorme star, mais il faut savoir qu'il est devenu star très tard.
Il a bien galéré avant.
À une cinquantaine d'années. Avant, il a bien galéré. Il sera très fidèle ensuite, d'ailleurs, notamment à tous les compositeurs qui travaillent pour ses films, notamment Raymond Lefebvre qui a composé, je l'ai mis pour le plaisir, la musique du gendarme à Saint-Tropez.
s'en lasse pas. Et je sens que ça parle beaucoup à Betty Guiri encore malade, qui, à mon avis, hier soir, à la soirée d'avant-première du film, ont dû pas mal grouver.
Est-ce que vous avez dansé là-dessus sur Do You Do You Do?
En fait, les gens l'ont demandé, ce soir. Du coup, on l'a mis à un moment donné. Les gens demandaient depuis longtemps, on l'a mis à un moment donné. On est obligé.
Vous avez cédé.
Dernière anecdote concernant Louis de Funès, quelle était son autre passion?
Ah, le jardinage, non?
Exactement.
Mais d'où vous connaissez ça?
En fait, j'ai une photo de lui dans un jardin en train de s'occuper des
roses. Et de quoi précisément? Exactement. Il faut savoir que dans son château, il avait une énorme roseraie.
Il avait finalement bien réussi.
À la fin, il était quand même richissime. Une énorme roseraie qui contenait plus de 1500 roses. Sa préférée, c'était la Brigitte Bardot, qui est une rose très très rose, d'ailleurs de couleur rose. Il aimait aussi la Maurice Chevalier. Et surtout, ce qui est assez drôle, c'est que vous retrouvez notamment sur le site de l'INA plein d'interviews de lui où il explique qu'il refusait les engrais. C'est-à-dire que c'était un bio,
avant l'heure,
qui trouvait ça complètement ahurissant de mettre des engrais dans ses plantes et qui faisait tout à la main, lui-même, qu'il entretenait ce jardin. Il avait commencé le jardinage après ses deux crises cardiaques parce qu'évidemment, il fallait qu'il se repose un petit peu. Et donc, il avait trouvé tout ça dans la nature.
Et ça lui fait un point commun avec Elise et Moon. Non pas les crises cardiaques, mais la passion du jardinage.
Très bien.
Je pense
en
que vous
cas,
le saviez,
allez voir le petit musée Louis de Funès.
Exactement.
À Saint-Raphaël qui est formidable. On découvre
face
tout ça.
De la gare, vous nous
en
l'avez
face
précisé.
De la gare.
Une chronique que je qualifierais d'honorable, même si pour vous démarquer, vous auriez pu imiter de Funès, évidemment.
Oui.
Ça vous aurait fait des points en plus.
Oh, ma biche.
Effectivement, vous des points en moins,
voilà,
c'est légal.
C'était risqué.
Mathieu, c'était bien risqué. Parti. Il a pris le risque.
Moi, j'étais. Moi, j'étais
pour toi,
j'étais séduit.
J'étais même pas encore entendu, j'étais déjà pour toi. Mais là, merde. Bon, bah, bravo.
Et voilà. Oui, bravo quand même. Si la vie était juste, on en resterait là. Malheureusement, pour pimenter la compétition, il y a la question vache de l'autre chroniqueur.
Cette pauvre vache depuis le début de l'émission. Là.
Alors, j'ai fait mes classes. Hein. Jules Funès est né en juillet 1914,
oui.
Il y a plus d'un siècle. Il est mort en 1983, ma femme n'était même pas née. Alors, c'est bien de regarder dans
c'est bien de dire que vous avez une meuf jeune, mais je vois pas trop.
Non,
le...
mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui est Louis de Funès.
Non.
Oh, donc, c'est bien de regarder dans le rétroviseur, mais j'aimerais savoir ce que ce musée fait pour la planète, monsieur Mathieu Charrier.
Ce que ce musée fait pour la planète, il divertit les gens, monsieur. Et je pense que c'est l'essentiel, parce que des gens divertis,
ils vont se mettre
sur
les
gens qui ensuite prennent soin de la planète parce qu'ils sont dans un monde qu'ils aiment.
Bon. Cette question était vraiment dégueulasse. La réponse ne vaut pas mieux. Cet éclairage sur Louis de Funès aura-t-il intéressé nos invités, Mehdi Idir et Grand Corps Malade? Avant de répondre non, messieurs, gardez l'esprit que Charrier fait aussi les chroniques ciné d'Europe 1, donc dites un truc neutre.
Pas mal.
Mathieu, je compte sur vous pour ne pas tenter de soudoyer les invités pendant la pub. Jure-le sur ce que tu as de plus précieux.
Mes mocassins Weston.
Oui, c'est bien. L'équipe est sauvage tous les jours des 16h. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 rivalisent d'ingéniosité pour vous étonner et épater nos invités aujourd'hui, Mehdi Idir et Grand Corps Malade, dont le film La vie scolaire sort en salle demain. À suivre, la compétition continue avec l'entrée en jeu d'Anissé Mbida, notre expert innovation, encore sous le choc de son score d'hier, 0.
C'est nul, hein.
Non, rajoutez pas, Eva. Il tâchera de se rattraper en évoquant la face sombre d'Instagram, accusé par le WWF d'aggraver le phénomène du surtourisme. Vous savez, ces petites rues, jadis charmantes et désertes, désormais encombrées de touristes qui se frayent un chemin à coups de perches à selfie. Eh ben, les riverains de ces petites rues charmantes, ils en peuvent plus. Ils en ont par-dessus la teuté, comme disent les jeunes. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. Vous votez pour votre chronique préférée. Nous sommes cet après-midi avec Mehdi Idir et Grand Corps Malade pour évoquer leur deuxième film, La vie scolaire, qui sort demain dans les salles. Alors, malgré les 1,3 million d'entrées, je crois, du premier patient et les 4 nominations au César, j'imagine que la boule au ventre est là quand même.
Il y a la petite pression, sûrement des chiffres, des premiers chiffres qui vont tomber, etc. Mais voilà, nous, on est
vous êtes fiers du film déjà, je pense.
On est content du film qu'on a fait. Voilà. On a des bons retours pour l'instant. Donc voilà, c'est plutôt de l'impatience. Que...
Et puis on commence déjà à bosser sur notre prochain.
Sur le prochain, le troisième.
Sur une série, là. On travaille sur une série qui se passe dans le milieu de l'humour. Du coup, on est déjà sur notre projet. Mais effectivement, on est pressé que ça sorte pour voir.
C'est pour une plateforme votre projet de série ou
on ne sait pas encore.
Sur le milieu de l'humour avec Louis de Funès, notre.
Très bien.
On est en contact.
Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les déstresser, Eva?
J'ai de la drogue.
Oui, non, je pensais plutôt un truc sympa sur le film qui est vraiment excellent. Je l'ai dit. À suivre notre fameux quiz Eva Rock contre le reste du monde. Mais d'abord, je viens de là. Extrait de la bande originale du film. Voici Grand Corps Malade sur Europe 1.
Je viens de la banlieue.
Je viens de la banlieue.
Je viens de là, Grand Corps Malade sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Eva Rock, Anissé Mbida et Mathieu Charrier sont à mes côtés, prêts à en découdre car c'est le concept de cette nouvelle émission. Une joyeuse empoignade entre les journalistes d'Europe 1 de laquelle seule votre culture G ressortira grandie sous l'œil de nos invités arbitres. Mehdi Idir et Grand Corps Malade nous accompagnent cet après-midi à l'occasion de la sortie de leur deuxième film après Patient en 2017. Cette fois, ils nous entraînent au cœur du quotidien d'un collège du 9-3, ça s'appelle La vie scolaire. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit, je le redis, c'est un très beau film. Et vous êtes d'accord avec moi, messieurs, si je dis que ce n'est pas du tout un film sur l'école en banlieue, mais vraiment sur l'école tout court. C'est universel, ce film.
Oui, bien sûr, monsieur. On a fait pas mal de tournées d'avant-première là, depuis 3 mois. On est allé un peu partout dans toute la France. Effectivement, on a des retours de plein de CPE, de surveillants d'élèves qui nous disent que ça ressemble énormément à leur collège. Donc là, ça se passe en banlieue, mais c'est pas ce qui définit le film, en tout cas.
En fait, il y a des spécificités vraiment.
Grand corps malade.
Des spécificités à la banlieue parisienne qu'on a traité dans ce film. Mais en même temps, voilà, des collégiens, des gamins entre 11 et 15 ans, c'est un thème, voilà, quel que soit le lieu, il y a les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, les mêmes incertitudes face à leur avenir. Et c'est là que voilà, tout le monde peut s'y retrouver.
Mais j'ai envie de dire que même par rapport au temps, on s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il y a tout un passage qui est assez hilarant avec un des jeunes qui invente des mots d'absence absolument incroyables pour son retard. Mais de notre temps, la vieille que je suis, on avait déjà des élèves comme ça qui inventaient n'importe quoi. Il y a une sorte d'immuabilité, j'ai l'impression, entre les époques. Et sur cette question du collège.
Nous, on a commencé à écrire le scénario avec nos souvenirs de collégiens, donc des années 90. Ensuite, on est allé sur le terrain pour voir comment ça allait, comment ça avait évolué. Ben ouais, sur la plupart des thèmes, on voit que ça n'a pas évolué, c'est sûr. Quelle que soit l'époque ou le lieu, voilà, les gamins sont les mêmes.
Et c'est quoi ? C'est le degré de violence qui a changé, vous pensez ?
J'ai pas l'impression. Non. Pour tout dire, quand on a demandé aux CPE, parce qu'on a beaucoup interrogé des CPE, on leur demandait ce qui les avait le plus marqués dans ces quartiers-là. Donc là, pour le coup, on a tourné à la cité des Framoisins à Saint-Denis. C'était pas la violence physique, c'était la misère. En fait, voilà, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait des familles vraiment qui soient aussi pauvres dans ce quartier-là. Et du coup, voilà, c'est ça qui les a le plus marqués.
Alors, je vais essayer un instant de me défaire de l'esprit de Michel Drucker qui m'habite depuis le début de cette émission. Si on devait faire une toute petite critique au film, peut-être, est-ce qu'il n'est pas le film plus positif finalement que la réalité ? Globalement, dans le film, tous les profs sont impliqués, la CPE est géniale, on va en parler, les surveillants font le taf tout en étant sympa et drôle. Est-ce que vous n'avez pas transposé votre vision du collège des années 90 dans un contexte économique et social peut-être aujourd'hui plus dur finalement que les années 90 ?
Non, parce que justement, on est allé en observation dans des collèges pour vérifier ça. Et là, absolument toutes les histoires qui se passent dans le film, c'est des choses que soit on a vues sur place, soit c'est des personnages qu'on a pu voir sur place. Donc c'est un espèce de mélange justement entre ce que nous, on a connu. Et justement, je ne vais pas vous dévoiler la fin du film, mais on n'a pas fait une fin justement où tout se passe très bien. Voilà. On n'a pas fait une fin... On a fait une fin un peu en nuance, voilà.
Et peut-être que justement, le propos du film, c'est peut-être justement que malgré justement toutes les bonnes volontés, et en effet, quand je suis d'accord avec vous, on les a mis à l'honneur, les profs, la CPE, les élèves, on voit qu'ils sont brillants, même les parents d'élèves, on a voulu aussi les mettre à l'honneur. Alors ils sont pleins de maladresse, on voit un père qui essaye limite d'humilier son fils devant la CPE, mais pourtant c'est parce qu'il montre qu'il est présent, qu'il veut le punir, etc. Et ben malgré la bonne volonté de tous ces individus-là, ben, on voit que ça marche pas très bien, donc c'est pas si positif que ça. Donc malgré ça, on voit que le contexte il est plus fort et que le système éducatif
ça revient souvent dans le film.
Dans ces quartiers-là, ça marche pas trop.
C'est ça qui est fort dans le film, c'est que vous montrez que c'est justement ces hommes et ces femmes qui font tourner un système scolaire qui derrière déraille complètement et qu'aujourd'hui l'État n'est plus en mesure de faire à fond fonctionner ce système-là et que grâce à la bonne volonté des uns et des autres, on maintient à peu près à flot.
Merci beaucoup Mathieu Charlier pour cette analyse. On voit que vous n'êtes pas Monsieur Cinéma pour rien. Encore Malade et Médidir sont nos invités cet après-midi.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures riches en découvertes distillées dans une ambiance guérilleuse, mais dans la discipline et l'exigence, grâce à notre rédactrice en chef Eva Rock, qui n'hésite pas, quand il le faut, à recadrer nos journalistes, quitte à prendre l'accent de Roger Hanin dans Le Grand Pardon.
Je te donne une claque, le mur il t'en redonne une autre.
À suivre, sous l'œil vigilant de Roger Rock, Anis Mbida nous parlera du problème du surtourisme, et si c'était Instagram le responsable. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier, Anis Mbida et sous l'égide de nos invités d'honneur, Mehdi Idir et Grand Corps Malade avec nous cet après-midi pour la sortie de leur film La Vie Scolaire sur vos écrans demain. Grand Corps Malade, on va aussi parler de votre autre actu, la sortie d'un album, collection, réunissant vos classiques et des inédits. Pour fêter ça, vous serez d'ailleurs, je crois, à l'Olympia les 10, 11 et 12 octobre prochains, c'est bien ça ?
C'est ça.
Vous êtes prêts pour ça ? Parce que comment vous faites pour faire tout ça en même temps ? La sortie du film, la préparation d'une série, les concerts ?
Je sais pas.
Ouais, vous savez pas, mais...
Vous avez un frère jumeau peut-être.
Ouais, j'aimerais bien. Non, mais voilà, c'est que du plaisir tout ça, donc ça bosse beaucoup, mais c'est vrai que c'est excitant et c'est vraiment un vrai privilège de pouvoir marier les deux, enfin avoir les deux casquettes, faire un peu de cinéma, un peu de musique.
C'est la belle vie. Hein.
C'est la belle vie.
Ouais. Mais d'abord, la compétition fratricide entre les journalistes d'Europe 1 continue. Anis Mbida, vous êtes notre spécialiste high-tech et innovation. Vous allez à présent nous parler d'un effet secondaire redoutable d'Instagram, le surtourisme. Mathieu Charrier, votre rival sur cette manche, est tout oui.
Carrément rien à branler.
Non, vous êtes tout oui, Mathieu. On a dit qu'on était fair-play. Hein. Alors, Anis, ne vous laissez pas déstabiliser. Allez-y, j'ai envie de dire... Croyez en votre bonne étoile.
Moi, je vais vous donner une astuce pour éviter le surtourisme, hein, c'est préserver des petits coins
de beauté que l'on photographie. Parce que ça nous est tous déjà arrivé, on arrive dans un endroit superbe, on veut l'immortaliser, on fait une petite photo.
On est rarement le seul dans ces moments-là.
Et boum, on la met sur Instagram. Parfois, on est tout seul, justement. Et c'est ça le problème, parce que quand on s'appelle Grand Corps Malade ou Mehdi, ou qu'on est un influenceur comme vous...
Alors moi, comme influenceur, ça va pas chercher loin.
La photo qu'on a publiée peut être vue par des millions et des millions de personnes qui veulent du coup faire la même photo, puisqu'elle est géolocalisée, ils veulent faire exactement la même photo. Donc parfois, dans les petits coins où c'est pas prévu, où c'est pas prévu de recevoir énormément de monde. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de personnes qui affluent. Parfois, dans ces personnes, il y a des indélicats qui laissent traîner des choses, qui piétinent sans le savoir. Et ça, l'endroit finit par être totalement saccagé. On a des tas d'exemples comme ça. Le plus récent, c'était une énorme colline aux États-Unis où il y avait des coquelicots. Elle était toute orange, elle était fabuleuse. Et quelques semaines après la première photo publiée par un influenceur, elle était complètement ravagée.
Les gens marchaient sur les coquelicots ?
Ben oui, parce qu'ils venaient par centaines, par dizaines de milliers dans un endroit qui n'était pas prévu.
Ah, ça, vous n'avez pas résolu le problème de la connerie humaine en deux minutes, Tanis.
Et la petite astuce, justement, pour réduire le problème de la connerie humaine, c'est justement de faire un peu comme fait Grand Corps Malade. Grand Corps Malade a pas mal de photos. Alors lui, en général, c'est plutôt ses potes, des photos dans les prisons, des photos à la fête de l'humain, mais j'ai regardé un peu plus loin. Il a ça dans son Instagram. Et quand on descend un petit peu dans son Insta, on trouve des photos. J'adore une photo d'un oiseau qui est Instabouf.
J'avais lancé un concours de la photo la plus beau.
Vous avez gagné.
J'ai vu d'autres photos aussi qu'il a faites. La photo qu'on fait tous, vous savez, on est dans un hôtel magnifique, on voit la vue de l'hôtel, c'est en Asie, je crois.
Ouais, exact, ouais.
C'est en Asie. On fait comme ça des photos. Et le problème, c'est que ce que fait Grand Corps Malade, lui, il ne met pas de géolocalisation.
Ah,
les
autres
ne sont pas géolocalisés. Mais le WWF a une meilleure idée que ça, c'est de dire de géolocaliser la photo, mais à un autre endroit.
Ça, c'est vicieux, le WWF.
Mais non, mais c'est pas n'importe quel endroit. Vous savez, quand on poste une photo sur Instagram et qu'on donne l'endroit où elle est localisée, on tape dans un moteur de recherche. On dit Europe 1, par exemple, ou bien tel hôtel, etc., tel restaurant. Et bien là, on met un petit message qui s'appelle I protect nature. Donc en fait, au lieu d'avoir la géolocalisation du lieu, on a un message je protège la nature. Donc non seulement le lieu est masqué, mais ceux qui veulent venir dans le même lieu, et on dit on protège la nature, donc on a un petit acte un peu militant et on préserve l'endroit que l'on a trouvé magnifique justement et qu'on veut immortaliser.
Et c'est vrai que ça va parfois loin, c'est cette mode des selfies. Il y a des selfies qui ont donné lieu à des accidents à Nice.
Ah oui, mais il y a quelques jours, c'était il y a 10 jours en Australie, une femme qui est morte. C'est grave, parce qu'elle est tombée d'une falaise.
Pas souvent, là.
C'est grave. Visiblement,
c'est une galère.
Non, mais pour une photo, pour un banal selfie, elle est morte. Bon, c'est arrivé. Et il y a même comme ça, vous savez combien il y a eu de morts à cause de selfies? Entre 2011 et 2017, il y a eu 259 morts. C'est plus que de morts attaquées par un requin, vous voyez?
Non.
C'est complètement incroyable. Donc, pour une photo, pour immortaliser, on arrive parfois à se mettre dans des situations pas possibles. Et vous savez, c'est en Inde où il y a la moitié des morts par photo, par selfie. C'est
pourquoi, qu'est-ce qui se passe de spécial en Inde?
Je ne sais pas, dans la culture. Je ne sais pas pourquoi c'est en Inde.
Attention, on va avoir des problèmes à Nice.
Dans la culture indienne, non mais on rigole, mais il y a des tas de sites comme ça qui se moquent en disant la dernière photo avant la mort de selfie. Beaucoup de gens se moquent de ça. Mais il y a des choses un peu dramatiques. Le gouvernement indien, justement, a commencé à protéger énormément de lieux, à mettre des messages, parce que les gens ne font pas attention.
Ils mettent des rambardes au bord des falaises.
Mais les gens passent par-dessus les rambardes aussi pour vraiment faire la photo. Donc,
ça revient à ce que je vous disais, vraiment faire attention. Si on en est à passer derrière une rambarde pour prendre un selfie, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution.
Vous imaginez celui qui veut faire un selfie avec un requin et il a un pourcentage de morts.
Mais il y en a plein.
Assuré.
C'était une bonne chute, Eva. Je vous remercie. Merci à Nice. Vous connaissez la règle, vous n'y échapperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Et lui, autant vous dire qu'il n'a pas fallu beaucoup le pousser. Mathieu Charrier, vous avez une question pour Anissé?
Non, Anissé se targue d'être jeune, de faire des chroniques jeunes. Est-ce que Instagram, ce n'est pas complètement dépassé? On a Snapchat aujourd'hui, Anissé?
Je pense qu'il n'est pas tout à fait au courant. Snapchat, c'était hier. Instagram, c'est demain. On lui explique comment ça fonctionne.
Il pensait rebondir.
On lui explique. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Je demandais juste à nos invités, entre Snapchat et Instagram, qui est le réseau le plus en vogue aujourd'hui?
Il me regarde avec ses petits yeux là. Instagram. Je suis désolé.
Vous avez quel âge?
J'ai 40 ans.
Tout est dit.
On ne les mettra pas.
Je crois vraiment que Snapchat, c'est déjà la fin. Ouais, apparemment.
Et quand vous avez tourné avec les collégiens, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels ils vont généralement?
Justement, c'était beaucoup sur Snapchat. On leur a tous dit de créer un compte Instagram pour en prévision de la sortie du film. Et du coup, maintenant, ils sont plus sur Instagram. Je jure que c'est vrai.
Mais juste pour préciser. Quand même, il y a aussi des géolocalisations sur Snapchat et c'est quand même pas une bonne chose de géolocaliser ses photos. Mettez ce petit hashtag, ça préserve des endroits et ça évite qu'ils soient piétinés.
Merci beaucoup, Anissé Mbida. Europe 1. L'équipe est sauvage continue avec nos deux invités, Grand Corps Malade et Mehdi Idir. On continue de parler ensemble de votre deuxième film, La Vie Scolaire, qui sort demain. Et préparez-vous, on va voir si vous êtes aussi doué pour répondre à des quiz que pour faire des films. Vous serez opposé à Eva Rock. Ne vous relâchez pas pour autant, sur un malentendu, elle peut gagner.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures de gaieté informative en compagnie de la fine fleur du journalisme Made in Europe 1 et en présence de nos épatants invités. Leur deuxième film sort demain. Ils ont certainement le trouillomètre à zéro. Ils ne devraient pas, c'est un bijou. Il s'intitule La Vie Scolaire. Mehdi Idir et Grand Corps Malade pour l'instant. Comment se passe cet après-midi en notre compagnie?
On est pas mal. Hein.
Très bien,
on est bien. Vous êtes confortablement installé. On a eu des petits problèmes techniques sur les fauteuils au début.
Ça va. En plus, j'ai appris que la mort, c'était grave.
Vous n'êtes pas venu pour rien.
Oui, exactement. Merci.
Nous passons effectivement un moment délicieux. Et quoi de mieux pour entretenir cette ambiance que vous proposez un petit quiz. Quiz que je découvre en même temps que vous, histoire d'en préserver la fraîcheur et accessoirement de pouvoir m'en dédouaner si jamais il était tout pourri. Il a donc été préparé, c'est important de le préciser, par Sébastien Bordenave.
Notre producteur.
Exactement, qui se prévaut du titre de producteur artistique. Grand Corps Malade, Mehdi Idir, vous allez jouer contre Eva Rock. Clin d'œil à La Vie Scolaire, c'est évidemment un quiz sur l'école. Vous jouez tous les deux contre Eva à tour de rôle. Chaque réponse vaut un point. Grand Corps Malade, Mehdi, ça c'est pour vous. Vrai ou faux, à l'école en France, les enfants pouvaient amener du vin jusqu'en 1956.
C'est vrai.
Sauf dans le Pas-de-Calais, où une dérogation a été autorisée jusqu'en 1962. Vrai ou faux ?
Vrai. Vrai.
On embrasse nos amis du Nord, c'est faux, pas de dérogation. Même si ça paraissait couler de source pour nos invités, pas de dérogation. Dans toute la France, l'interdiction a été prononcée en 1956.
Allez, vous ne marquez pas question, c'est juste la dérogation qui est faux.
Bien sûr. Ah, bah, c'est des couilles
de niveau, niveau de perfidie. Ok, on en est là.
Ils sont vicieux dans cette équipe, vous allez comprendre.
Et baroque, oui. Vrai ou faux, en mai dernier, un professeur dans une école primaire du New Jersey a été licencié car il enfermait ses élèves dans un placard à méchants en compagnie d'une peluche à l'effigie de Donald Trump.
Oh, je suis sûr que c'est vrai.
Eh bien, vous avez totalement tort, puisque c'est faux. Par contre, ce même professeur du New Jersey a bien été licencié, mais c'est parce qu'il avait dit à ses élèves du primaire que le Père Noël n'existait pas.
Oh. Faut être gonflé pour dire une connerie pareille.
Ouais. Une question et trois propositions, vous me donnez votre choix et ensuite je vous donne la bonne réponse. Tout le monde joue. Faire un concert dans une école, voilà une bonne idée. Taylor Swift. Vous connaissez Taylor Swift, surtout à lycée puisqu'il est jeune, a organisé un vote sur internet pour que les fans choisissent leur établissement scolaire. Mais que s'est-il passé ? 1. C'est une école pour malentendants qui est arrivée premier. 2. On a dû détruire 3 salles de classe pour faire ce concert. Ou 3. Le prof de maths a fait un solo de guitare, 37 millions de vues sur YouTube.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Mehdi et Grand Corps Malade ?
La 3
elle a l'air pas mal.
37 millions de vues sur YouTube pour le prof de maths.
Si tu me dis non, en fait, faux, c'était 36 millions. Là,
mais je pourrais. Tu sais que je suis une bête salopée, je pourrais tout à fait. Eva,
moi, je dis qu'il a fallu détruire 3 classes pour la salle de concert.
Et bien là, c'est très très bien. On arrive à un score total de 0-0-0-0 pour tout le monde, puisque la réponse était les internautes, pour la blague, se sont mobilisés pour qu'une école d'enfants sourds et malentendants arrive premier. C'est ce qui est arrivé. Et Taylor Swift n'a pas fait le concert, mais elle a fait un don de 50 000 $, ce qui est assez classe. Eva Rock, vrai ou faux, Henri Matisse, le peintre, a été recalé 2 fois à l'école des Beaux-Arts.
Oh bah oui.
Non, encore un piège, c'est faux. C'est vraiment pernicieux. Par contre, il fallait répondre, parce que votre culture générale est immense, vous allez dire, non Mathieu, par contre, Auguste Rodin a été recalé 3 fois aux Beaux-Arts. Son niveau a été jugé à l'époque insuffisant, comme quoi un beau message d'espoir pour tous les jeunes,
oui,
si Rodin était recalé.
Il y en a plein qui ont été recalés des grandes écoles et qui sont bons et qui ont des vrais métiers.
Rodin a continué hein, parce qu'il a fait ses sculptures par d'autres.
Ça, ouh, une accusation.
C'est vrai, il a raison.
Grand Corps Malade, Mehdi, vous connaissez sûrement la marque de glace Ben & Jerry's. Eh bien, Ben et Jerry étaient dans la même classe et comme ils n'aimaient pas la gym, ils sont devenus potes. Vrai ou faux?
Mais c'est faux.
Grand Corps Malade. C'est une bonne réponse. Ben Cohen et Jerry Greenfield sont les deux élèves les plus fainéants de la classe. Ils sont nuls en gym, du coup ils sympathisent en bouffant des glaces, j'imagine. 20 ans plus tard, le Time Magazine donne à ces deux Américains le titre de meilleure glace du monde.
J'ai eu peur que la réponse soit « Non, c'était Häagen-Dazs !» J'ai eu peur de ça à un moment donné.
Moi, je m'attendais à ça aussi, mais je découvre avec vous.
Et en parlant de gym, pardon, on peut faire juste une aparté. Vous avez une scène absolument hilarante dans le film avec un prof de gym qui est complètement fou parce qu'il invente des disciplines improbables, hein, ça n'existe pas.
Il mixe des sports, ouais.
Et vraiment, c'est
ça d'ailleurs, j'ai une question
hilarante.
Qui va venir plus tard pour Grand Corps Malade et pour Mehdi. Est-ce que c'est une invention pure et simple ou vous avez déjà croisé dans votre scolarité un prof aussi dingue?
Ça, c'est une invention. Ça, voilà. La seule chose où on a poussé le curseur extrêmement loin, c'est là-dessus.
Et c'est la seule chose de plaisir. Comédie, je pense, peut-être dans la réalité, ce serait pas possible parce que ça serait interdit, je pense, par l'éducation nationale. Voilà,
fait, je pense que,
le ping-pong ballon sauteur, ça marche pas.
Il va aux assises avec
c'est sûr. On termine ce quiz, c'est la question que je vais vous départager. Pour l'instant, il n'y a que Grand Corps Malade qui a marqué un point. Une question, trois propositions, vous me donnez votre choix, je vous donne la bonne réponse. En France, en Isère, en début d'année, qu'a fait le maire pour éviter qu'une classe ferme ? 1. Il a ouvert une cagnotte litchi pour payer le prof sur une année scolaire entière. 2. Il a fait redoubler 7 élèves. 3. Il a inscrit 15 moutons.
Ah, mais je la connais la réponse, ouais.
Comment ça, vous la connaissez
ouais,
la réponse ?
Oui, je la connais. Non, franchement, je la connais.
Vous habitez ce village-là ?
Non, même pas, vous encore malade. Non,
elle est la mère d'un des moutons. Puisque le maire, Jean-Louis Marais, en mai dernier, a officiellement inscrit 11 moutons auprès du rectorat. Il a même envoyé les certificats de naissance, et ce grâce à la complicité d'un éleveur des environs. On vous dira les jours prochains si le stratagème a réussi, sachant qu'on vient de le griller à l'antenne, c'est pas sûr. Autant pour nous, Jean-Loup, égalité parfaite sur ce quiz. Mehdi, Idir et Grand Corps Malade sont nos invités jusqu'à 18h pour leur film La vie scolaire en salle demain.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre l'actu sans jamais oublier d'en rire. Continue, dans un instant nous accueillerons Benoît Berthelot, un journaliste qui a plongé dans les coulisses d'Amazon. Ce qu'il a découvert est assez édifiant. Mais d'abord, voici Grand Corps Malade, en duo avec Calogero, l'ombre et la lumière sur Europe 1. Calogero, Grand Corps Malade, c'était l'ombre et la lumière sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec nos invités d'honneur cet après-midi, Mehdi Idir et Grand Corps Malade, dont le film La vie scolaire sort demain en salle. Un film qu'Eva et moi avons adoré. On continue à en dire du bien avec un degré de flagornerie que même Laurent Delahousse jugerait choquant. Mais d'abord, on accueille notre invité du jour. Bonjour Benoît Berthelot.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Capital et auteur d'un livre intitulé Le monde selon Amazon. Rien que le titre me fait flipper. L'univers d'Amazon que vous décrivez est digne d'un film de science-fiction. Flicage des salariés, des clients, des marchands indépendants surtaxés, des livreurs sous-payés et exploités. C'est quoi la solution par rapport à ça en tant que consommateur ? On boycotte Amazon ?
Je ne sais pas. Il y a des gens qui commencent à boycotter Amazon parce qu'ils trouvent problématique ses pratiques environnementales, sociales, fiscales, même sécuritaire, les problèmes démocratiques que l'entreprise pose. Donc des consommateurs, oui, ils commencent à se rendre compte qu'en consommant sur Amazon, ils promeuvent un modèle de société qui est problématique sous plusieurs aspects. Maintenant, je pense que toutes les inquiétudes sur Amazon doivent conduire l'entreprise à changer, à prendre en compte ces problèmes-là. Par exemple, les destructions d'invendus qui ont choqué beaucoup de gens commencent à être mises en cause.
Et justement, Amazon commence à bouger là-dessus ou pas
du tout ? Aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils ont dit qu'ils allaient tester des dons de ces produits plutôt que leur destruction. Mais l'option de les détruire est encore courante, et c'est encore le cas en France. Des gens m'ont envoyé des photos de bennes d'invendus qui sont détruits, donc c'est des choses qui existent encore. Non, je pense qu'effectivement, ils ont été les plus rapides, ils ont imposé leur modèle, les autres les ont imités aussi, et il va falloir que énormément de choses changent dans le secteur de l'e-commerce et chez Amazon en particulier.
Vous avez donc enquêté 3 ans sur le géant américain. Vous allez nous décrire ce que vous avez vu, mais est-ce qu'on peut résumer ainsi ? Chez Amazon, le client est roi, l'employé est soumis.
Oui, il est certain que le client est la priorité. Alors, ce n'est pas toujours vrai maintenant parce qu'ils ont tellement de produits.
Ah si, c'est pratique, tu renvoies ce que tu veux. Voilà,
ils ont un très bon service client, etc. Mais ils commencent à avoir une telle taille aussi qu'ils laissent passer des produits défectueux ou de mauvaise qualité. Enfin, c'est un autre problème qu'ils ont. Mais effectivement, la logique de Jeff Bezos au début, ça a été de dire le client est roi. On investit énormément pour offrir le meilleur service possible. En revanche, les salariés, effectivement, chez Amazon, tous ceux à qui j'ai parlé n'ont pas la sensation d'être la priorité, ça c'est clair.
Et pire que ça, il y a un côté secte un peu chez Amazon.
Oui, j'ai découvert qu'ils avaient une idéologie propre, avec 14 commandements.
Autre que le capitalisme.
Leur propre version du capitalisme à la Jeff Bezos, qui est un peu leur gourou, leur maître.
C'est le créateur d'Amazon,
c'est ça,
on rappelle.
Exact, voilà. Ils ont 14 principes, des commandements qu'ils doivent citer en permanence, sur lesquels ils sont interrogés pour entrer dans l'entreprise. Et s'ils ne les respectent pas, ils sont licenciés. Donc,
mais c'est quoi ces commandements ?
C'est donc le premier, c'est l'obsession pour le client. Voilà, tout doit être fait pour que le client soit placé en premier, celui qui est cité le plus. Et après, c'est il faut par exemple ne pas être d'accord avec tout, mais dire oui quand le chef...
ça, c'est bien. Ça, je vais l'appliquer dans notre émission. Voilà. Ça. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais en revanche, vous, dites vous fermez votre gueule.
Il y a la, voilà. Il y a la frugalité, donc avoir toujours, faire toujours des économies sur tout. Il y a inventer, simplifier en permanence les procédés, être les meilleurs, se dépasser en permanence avec des objectifs de productivité qui, du coup, sont toujours plus délirants parce que la médiocrité n'est pas admise chez Amazon. Enfin.
Et alors, Amazon n'est plus qu'un simple site marchand, c'est aussi des avions, un programme spatial, des supermarchés. Alors ça, je ne savais pas. Jeff Bezos, le patron ultra-puissant donc, d'Amazon, a pris une petite participation dans Future Retail, un distributeur indien qui exploite 2000 magasins. Qu'est-ce qui peut arrêter l'expansion d'Amazon aujourd'hui ? Est-ce qu'à l'époque, on disait, au moment de la crise, on disait les banques sont too big to fail, elles sont trop grosses pour faire faillite. Est-ce qu'Amazon n'est pas too big to be stopped, enfin trop gros pour être stoppé maintenant ? Comme ils sont devant, ils ont un avantage comparatif qu'on ne pourra plus leur enlever.
Oui, ce qui est le principe sur le web, c'est vrai pour Google aussi, par exemple, qui semble indétrônable. Ou Facebook, effectivement, ils ont pris des telles positions, ils investissent tellement qu'ils font en sorte d'asseoir leur suprématie. Maintenant, les autres essaient de répliquer maintenant, Walmart aux États-Unis, mais les distributeurs français aussi. Et ils vont devoir en permanence surenchérir pour garder leur place de leader. Ils sont quand même attaqués, mais effectivement, ils sont très puissants aujourd'hui. Ouais.
Grand Corps Malade et Mehdi Idir, est-ce que vous êtes vous-même client d'Amazon et consommateur d'Amazon ?
Vous pouvez l'avouer au micro d'Europe. Hein.
Voilà. J'ai Amazon non. Prime, j'avoue.
Vous, non. Grand Corps Malade, vous allez encore dans les librairies vous...
Ouais, je commande en tout cas pas sur Amazon, c'est vrai. J'ai...
Mais d'un point de vue éthique ou simplement
Déjà un peu parce que je suis ringard au niveau du commerce, je suis très en retard. Et vraiment un peu au niveau éthique, voilà. J'ai entendu déjà pas mal de choses sur Amazon, donc j'essaye de pas m'y mettre.
On essaye d'éviter quand on peut. Benoît Berthelot, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui défendent Amazon, notamment en tant qu'entreprise créatrice d'emplois ? Il y a des villes qui se battent pour avoir un entrepôt d'Amazon sur leur territoire. Il y en a un qui va ouvrir à Metz d'ailleurs, sur une ancienne base aérienne.
Oui, effectivement, ils ouvrent d'ailleurs dans des anciens bassins industriels qui ont des problèmes de chômage pour pouvoir recruter. Oui, ils ont annoncé 9300 emplois d'ici la fin de l'année. Maintenant, c'est réducteur de regarder que les créations d'emplois, puisque évidemment, le reste du commerce va très mal. Les hypermarchés licencient.
Oui, ça a tout révolutionné dans le commerce.
Ça a tout révolutionné et ils prennent des parts de marché à tout le commerce traditionnel. Ils sont tellement efficaces qu'on peut se poser la question de est-ce que les destructions d'emplois ne sont pas supérieures, et même bien supérieures, aux emplois créés par Amazon ? Donc, ce n'est pas si simple.
Je rappelle que tous les albums de Grand Corps Malade sont disponibles sur Amazon. On embrasse Jeff Bezos quand même.
En 24 heures, vous pouvez les commander. Notamment le prochain qui arrive vendredi, qui est un double album collection sur Amazon, sur la Fnac. Après, on est bien.
Je vais tous les citer. Mehdi Idir, Grand Corps Malade, vous venez de nous présenter donc cet après-midi La vie scolaire, votre deuxième film sur le quotidien d'un collège en Seine-Saint-Denis. Si le monde d'aujourd'hui est celui qu'on vient d'entendre d'Amazon, de ses centres de stockage, de ses intérimaires payés de misère, est-ce que l'horizon n'est pas encore plus bouché pour les jeunes de ZEP aujourd'hui qu'il ne l'était à notre époque, j'ai envie de dire.
Waouh.
Vaste question. Mais je m'interrogeais en voyant le film hier. C'est vrai qu'on voit le potentiel de ces enfants et c'est presque encore plus frustrant parce qu'on voit leur talent, mais on se dit, est-ce qu'ils vont trouver la voie ?
Oui, ce que vous montrez aussi, c'est la force du déterminisme social hein, qui, malheureusement, malgré la bonne volonté de ces élèves qui sont intéressés par le monde, ont quand même socialement des contraintes qui font qu'ils n'y arrivent pas forcément comme les autres.
Moi, c'est ça, on voulait montrer que même avec la meilleure volonté du monde, parfois, le contexte est plus fort que les hommes, ouais, effectivement. C'est plus le contexte qui joue dans ce cas-là.
Après, on essaie toujours d'être nuancé, de ne pas généraliser. Et heureusement, bien sûr, il y en a qui vont s'en sortir par la voie classique, par un bac général, etc. Mais c'est vrai que ce fameux déterminisme social, il existe. Il y a des chiffres qui existent qui montrent que quand on vient d'un quartier populaire, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chances d'accéder aux études supérieures et aux grandes écoles.
Après, l'autre message, c'est de dire, qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que pour autant il faut baisser les bras et s'avouer vaincu ou est-ce qu'il faut au moins essayer d'aller de l'avant ? On pense qu'il faut essayer quand même d'aller de l'avant, effectivement.
On remercie Benoît Berthelot d'être venu nous voir. Merci, on rappelle le titre de votre livre, Le Monde selon Amazon aux éditions du Cherche Midi. Europe 1. L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue au programme. Une belle histoire, encore une des retrouvailles miraculeuses sur un bateau de Médecins sans frontières et un métier du futur, gardien de sable. Moi aussi, ça m'a un peu fait bizarre quand on m'a vendu ce sujet, mais vous allez voir, c'est tout sauf anecdotique.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, 2 heures au carrefour dangereux du journalisme et du burlesque où les journalistes d'Europe 1 se livrent une bataille féroce pour le titre de chroniqueur du jour, sous l'œil intransigeant de nos invités et arbitres, Grand Corps Malade et Mehdi Idir. La vie scolaire, votre deuxième film, sort demain en salle. Il serait criminel de passer à côté.
Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous.
Monsieur, en fait, ça tec la nouvelle coupe 1. On dirait un vrai daron maintenant.
Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté.
Hey monsieur, déjà, les maths, c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur?
C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir.
Sérieusement, dans cette classe, vous voyez des comptables ou des banquiers?
La bande-annonce du film La vie scolaire, vous entendez un mélange de sérieux et d'humour, beaucoup d'humour hein, dans ce film, beaucoup de vannes. Mehdi Idir, Grand Corps Malade, vous êtes fier du résultat, demain sort le film. Je ne vous sens pas stressé parce que je vous sens fier.
Ouais, c'est un peu ça en fait, on a eu la chance, on a fait une longue tournée d'avant-première, on a fait au moins une trentaine de villes depuis 2 mois et demi. Et oui, du coup, c'est pour ça qu'on est content, c'est qu'on voit comment réagissent les gens. En effet, ça rigole beaucoup. Donc, quand tu as écrit les vannes et que tu es dans la salle et que tu entends rire les gens, bon, voilà, c'est vrai que c'est une première satisfaction. Ensuite, on sent que les gens se posent pas mal de questions. Il y a eu des débats, évidemment. Le but, c'est de rencontrer, de discuter avec les spectateurs après. On voit que les gens sont émus. Ouais, donc voilà, ces retours-là, les retours directs, ils nous ont fait très plaisir. Ouais.
Ça fait chaud au cœur. Mehdi Idir, Grand Corps Malade sont avec nous jusqu'à 18h. Avec eux, on continue de parler de la vie scolaire demain en salle et la compétition. On continue. Avant qu'il ne s'éclipse pour laisser la place à deux nouveaux concurrents, on salue Anissa Mbida et Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1. Mathieu, un dernier mot pour Grand Corps Malade que vous suivez depuis son premier album.
T'as bien rebondi, mon salaud.
Merci pour lui.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit. 2 heures d'infos et de découvertes enrobées d'une généreuse couche de gaieté, mais sous le contrôle parfois assez strict de nos invités. Hier, par exemple, pour la première, on recevait Harry Habitant. J'avais dit à Harry, bon, si je savonne, sois cool, ne le fais pas trop remarquer à l'antenne. Il m'a presque écouté. J'ai l'homme qui va vous
On l'a refait parce que c'était dommage, c'était très bien. J'ai l'homme qui... C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune lettre dans le bon ordre. J'ai l'homme qui...
Merci Harry. Heureusement aujourd'hui on reçoit deux gentlemen, deux amours, Grand Corps Malade et Mehdi Idir pour leur deuxième film en salle demain, La vie scolaire. On continue d'en parler mais la compétition, vous le savez, fait rage l'après-midi sur Europe 1. Les meilleurs journalistes de la rédaction se succèdent au micro pour vous livrer les histoires ou les infos les plus édifiantes. Pour cette deuxième heure, on accueille Anne Le Gall, notre spécialiste environnement. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Anne, qui ne vous y trompez pas messieurs, sous ses airs de Sainte-Nitouche, sait mettre l'ambiance quand il le faut. Pas vrai Anne?
Chaud cacao, chaud chocolat.
CQFD. Anne qui nous parlera d'un métier du futur qui ressemble à une blague mais qui n'en est pas une. Gardien de sable, on a hâte.
Enfin, oui, mais vous pouvez parce que figurez-vous que le sable est en train de disparaître et c'est un métier d'avenir.
On va voir ça à vos côtés, insondable, mystérieux, humaniste à 16h, voici Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, cet après-midi, c'est une très belle histoire que vous allez nous raconter.
Ouais, je relis le texto fébrile que vous m'avez envoyé tard hier soir, Mathieu. Jean-Philippe, au secours, on n'a que des chroniqueurs tocards dans l'émission. Est-ce que vous pouvez élever le niveau? Je suis fidèle en amitié, Mathieu, je suis là.
Vous êtes un vrai compétiteur, vous, Jean-Philippe.
Je raconterai de très belles retrouvailles totalement improbables sur un bateau humanitaire.
Nous verrons si votre histoire passionne nos auditeurs et nos invités. Mehdi Idir et Grand Corps Malade sont avec nous jusqu'à 18h. Vous aviez aimé Patient, leur premier film. Vous allez adorer dès demain en salle La vie scolaire, superbe plongée dans le quotidien d'un collège de Seine-Saint-Denis. Donc, vous avez montré le film là-bas. Il a été reçu comment en Seine-Saint-Denis? Et là, j'imagine là où ça a été tourné. Comment ça s'est passé?
Très bien. En plus, on a fait tourner beaucoup de profs qui ont fait un peu de figuration, d'élèves qui ont fait de la figuration, des gens du quartier qui ont fait de la figuration sur notre film ou qui ont joué même sur notre film. Du coup, ouais, c'était émouvant pour eux. Ils voyaient un peu leur vie à l'écran. Et c'était important pour nous d'être le plus réaliste possible. On a beaucoup bossé là-dessus. Et pour l'instant, de tous les profs, tout le personnel d'établissement avec lesquels on a pu parler, on a plutôt des très bons retours là-dessus.
La rentrée va être costaud, là, parce qu'ils vont se retrouver entre profs et élèves. Ils ont joué dans un même film. Vous voulez foutre la pagaille avant même le début de l'année scolaire.
C'est notre but. Non.
Est-ce que ça a été pas dur à diriger, parce que vu le résultat, je pense que ça a été une réussite, mais est-ce que ça a été long à diriger des acteurs comme ça, des acteurs donc qui n'en sont pas, des jeunes, pour leur faire intégrer les répliques, leur faire s'approprier les répliques? Vous avez mis beaucoup de temps sur ce tournage?
Non, pas trop. Honnêtement, ils ont été très pros tout de suite, en fait. En fait, ils avaient vraiment une envie. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment des gens qui ne voulaient pas faire ça à la base. Donc, il y avait un espèce de truc où ils ne voulaient pas trop nous décevoir. Dire, putain, vous nous donnez un petit peu une chance, il faut qu'on soit bon. Ouais. Du coup, au début, En amont, on s'est dit, bon, on va prendre beaucoup de temps pour travailler avec eux. Du coup, on a beaucoup, beaucoup répété. Mais on s'est rendu compte tout de suite, lors des répètes, qu'ils connaissaient déjà leur texte, qu'ils étaient très sérieux. Il n'y en a aucun qui était en retard. Donc, limite, c'était plus les adultes, comme on les connaissait un petit peu, Alban Ivanov, tout ça, c'est
Alban
nos potes.
Alban Ivanov, il vous a posé des problèmes. Ouais, ça, c'est
un énorme problème de bouffe.
Non, en dehors de ça, non. Ils étaient vraiment pros.
Étaient pros. Je crois qu'il y avait vraiment une ambiance incroyable. C'est-à-dire que même ceux qui ne tournait pas forcément tel jour, eh ben, il venait quand même au collège. Parce que du coup, il y avait. Voilà, c'était la colo. Je crois que c'était en juillet-août de l'année dernière. Je pense qu'ils n'ont jamais été autant ravis d'aller à l'école, même en plein été. Donc, il y avait vraiment une ambiance de colo vraiment sympa.
Vous avez tous les deux grandi en banlieue. Aujourd'hui, vous y vivez toujours ou vous êtes parti?
J'ai passé le périph.
Vous avez passé le périph.
Ouais. Vous
êtes à Saint-Denis. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui se sent déphasé? Est-ce que Grand Corps Malade, vous vous sentez aujourd'hui déphasé quand vous revenez en banlieue ou vous y avez grandi, donc c'est toujours chez vous et vous y avez vos repères?
Ouais, non, j'ai déménagé il y a 4 ans. Donc,
ah oui, donc c'est récent, oui, ça va.
J'ai fait 36 ans de Saint-Denis, donc, et puis mes parents y habitent, mes potes y habitent, j'y suis souvent. Non, je ne me sens pas du tout déphasé. Puis j'habite quand même à peu près à 15 minutes de Saint-Denis, donc j'y suis souvent. Ouais.
Mais Didier, vous avez des enfants?
J'ai un enfant, oui.
Et est-ce que
il a 6 ans.
Et donc, il est scolarisé en Seine-Saint-Denis?
Tout à fait.
Donc vous croyez au système scolaire français, il n'y a pas de problème?
Ouais.
Vous lui faites confiance? C'est cette positivité qu'on sent dans le film, même si le film est un peu ambigu là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'espoir, mais aussi pas mal de fatalisme sur le déterminisme social, sur l'incapacité des jeunes à comprendre ce que peut leur apporter l'école, surtout à cet âge-là, en troisième. On ne voit pas trop le lien entre une équation et le métier qu'on pourra exercer. Ça, c'est le problème fondamental auquel sont confrontés les profs.
Je pense qu'il y a...
Grand Corps Malade.
Il y a deux choses. Il y a un gamin du collège en général. De toute façon, quel que soit ton lieu d'habitation, tu te demandes pourquoi f de x égale x au carré, machin.
Je me suis posé la question.
Et qu'est-ce que ça va t'amener dans ton avenir? Ça, quel que soit le lieu. Et puis après, oui, les gamins, ils sont pas dupes. Ils savent très bien, les mecs qui habitent la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, savent très bien qu'ils n'ont pas la même chance au départ dans la vie que les autres. Et que quand tu viens de ce quartier-là, de ce collège-là, dans une classe en plus un petit peu, où on a mis tous ceux qui avaient les moins bons résultats tous ensemble, ça aide pas pour bien rentrer dans la vie. Et ils en ont parfaitement conscience. Ouais.
Alors, il y a aussi des vrais moments de grâce dans ce film. Certains personnages sont hilarants. Et Eva, vous en parlez tout à l'heure, notamment cet élève totalement mytho qui invente chaque jour une excuse différente pour justifier son
retard.
Au-delà du fait qu'il a des excuses mytho, il a une façon de jouer qui est, je sais pas comment il est dirigé, mais enfin c'est incroyable. Il est complètement, on a l'impression qu'il est dans la lune. C'est un beau personnage. Alors donc ça va d'une grève d'Air France alors qu'il habite au bout de la rue à un animal de la taille d'une antilope qui l'a empêché de traverser la rue. Bon, en même temps, on l'a tous fait.
Moi, j'ai eu beaucoup de retard en primaire. Comme en plus j'habitais presque en face, j'avais des excuses bidons, mais ça marchait toujours.
Moi, je me suis pas réveillé. Du coup, j'ai dit au prof que mon réveil, il avait pas sonné, alors que j'avais pas de réveil.
Ok, j'ai un cochon d'Inde et j'ai dit que mon cochon d'Inde, il avait fait une crise d'asthme.
Mon hamster a fait une crise d'âme. Certains sont quand même plus imaginatifs que d'autres.
Ça, hein.
Franchement, cette fille, je vois pas en quoi ça empêche d'aller à l'école. Mais enfin, bon.
J'ai la rage de pas y avoir pensé. On a dû le mettre dans le film.
Vous-même, Médidir, Grand Corps Malade, votre pire mot d'excuse, parce qu'évidemment, vous avez déjà rédigé vous-même un mot d'excuse, comme nous tous. Ah. Oh non, c'était des élèves studieux.
Non,
en fait, c'est que moi, j'écrivais tellement mal. Tu sais, les trucs où tu imites la signature de tes parents. Moi, j'ai jamais réussi. C'était grillé. Ouais, j'écrivais comme un poney. C'était pas du tout crédible.
La vie scolaire sort demain en salle Médidir et Grand Corps Malade. Ses co-réalisateurs sont avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage se poursuit sur Europe 1. Vous avez peut-être entendu parler de ces vols de sable qui se multiplient en Méditerranée, sur les plages, notamment en Italie. Notre journaliste Anne Le Gall a enquêté. Eh bien, le plus grand danger pour le sable, ce ne sont pas les touristes. C'est beaucoup plus grave. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Roque, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas. 2 heures pour rire et découvrir, grâce aux journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre sous l'œil de nos invités Mehdi Idir et Grand Corps Malade, dans le film La vie scolaire sort demain. Et le moment est venu, messieurs, de découvrir si oui ou non le métier pour le moins incongru sur le papier de gardien de sable existe dans la réalité ou seulement dans l'esprit malade d'Anne Le Gall, qui, rappelons-le, a deux passions, le journalisme
et la Macédoine.
Anne, respirez un grand coup, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que votre histoire de gardien de sable?
Alors d'abord, je suis venue avec ce seau, ce magnifique seau en plastique bleu. Je suis venue avec un accessoire.
Jean-Philippe Ballès.
Point règlement, on a droit aux accessoires pour les chroniques?
Je n'ai pas encore décidé, Jean-Philippe. Je statuerai à la fin de cette émission.
scandale.
Alors tout ceci, c'est juste pour mieux vous émouvoir, parce que comme je sais que Jean-Philippe a prévu de jouer sur la corde sensible avec son histoire, eh bien moi aussi, je veux vous toucher. Le message, c'est que j'espère que dans 30 ou 50 ans, ce saut de plage servira encore à nos petits-enfants, qu'ils feront aussi des châteaux de sable comme nous, ce qui n'est pas sûr.
Mais comment ça, c'est pas sûr ? Il n'y aura plus de sable ?
Ben, figurez-vous déjà que ce week-end en Sardaigne, il y a une brigade de gardiens de sable qui a dû être créée. Alors vous imaginez une dizaine de surveillants en t-shirt qui surveillent les touristes.
On sent que vous les imaginez,
les
t-shirts moulants et musclés.
Je suis allée dans la presse locale,
vous allez trop loin dans la fiction.
Les voir en photo. Et donc, les autorités locales en ont ras-le-bol. Les vols de sable se multiplient en Sardaigne. Il y a eu 200 kilos saisis à l'aéroport il n'y a pas longtemps. C'était mi-août. C'est un couple de Français qui a été arrêté à la douane parce qu'ils avaient embarqué 40 kilos de sable dans leur voiture. Ils voulaient mettre la voiture dans le ferry direction
Mais
Toulon.
La question simple est pourquoi faire ?
Pourquoi faire ?
Pourquoi
Alors,
prendre du
pour
sable ?
Pour les touristes, eux disent que c'est un souvenir de
Mais
vacances.
Un souvenir,
40 kilos,
c'est
en
du
réalité,
beau souvenir. Hein. C'était
réalité,
pas du shit plutôt, Anne, vous avez bien enquêté.
C'était du beau sable blanc de Sardaigne. Il y a un trafic sur eBay, il y a du sable qui se vend. Mais la réalité, c'est que si les trois quarts des plages du monde se réduisent, rétrécissent, en réalité, il y a un autre problème. C'est que le sable est devenu la deuxième ressource la plus rare après l'eau. Voilà.
Bah on va dans le Sahara, on a du sable.
Ah, il y a plein de sable, sauf que c'est pas celui-là qu'on utilise. On utilise du sable pourquoi ? On l'utilise à cause de l'industrie. Effectivement, ce ne sont pas les touristes en fait qui consomment trop de sable, c'est l'industrie. L'industrie du bâtiment d'abord, puisqu'il faut du sable pour fabriquer du béton. Pour chaque kilomètre d'autoroute, il faut 30 000 tonnes de sable. Pour construire une maison, eh bien, il faut 200 tonnes de sable. Et du sable, on en a aussi dans le verre, dans l'informatique, même dans les lessives ou dans les pneus. Ce qui fait que nous, habitants de la Terre, on consomme 18 kilos de sable par jour.
Vous imaginez, je sens, Jean-Philippe Balas, que vous êtes séduit par le sujet de votre concurrence qui est gênant.
La Chine en pleine expansion consomme aujourd'hui trois fois plus de sable que tous les pays développés il y a 5 ans. Tout ça parce qu'ils construisent. Donc effectivement, ce sable qu'on exploite provient alors, des rivières, des carrières, des plages aussi, c'est du sable marin. Et pourquoi on n'utilise pas le sable du désert ? Vous l'avez évoqué.
Bah, je l'ai dit, c'est le bon sens. Hein.
C'est le bon sens, sauf que le sable du désert, il est poli par le vent, il est fin et donc il ne s'agrège pas. C'est pour l'instant un sable qu'on a du mal à utiliser dans le bâtiment, mais ça change. Et c'est là où je veux quand même mettre un petit peu d'espoir dans cette chronique, parce que l'idée, c'est pas de plomber l'ambiance, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait aujourd'hui. Donc on commence
à construire
utiliser...
des maisons en bois.
On peut construire des maisons en bois, c'est écologiquement, c'est très, très utile. Et puis, on commence aussi à fabriquer du béton, donc avec du sable du désert, avec des cendres issues d'incinérateurs à ordures. On commence aussi à utiliser des débris végétaux, du chanvre. Voilà, tout ça pour limiter la quantité de sable consommée par l'industrie. Donc, il y a une prise de conscience et les Nations Unies parlent désormais de la crise du sable comme d'une nouvelle urgence écologique. Mais quand même, l'idée fait son chemin.
Entre l'eau et ça, on est bien barré. Merci Anne Le Gall, c'est la règle, nul déroge. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Jean-Philippe Balas, je vous vois hausser les sourcils depuis 5 minutes. Allez-y, crachez votre venin, serpent.
Alors, première question, est-ce que je peux récupérer le seau pour ma progéniture, déjà, avec votre pelle ?
Je vais l'offrir aux invités.
Donc
si
déjà ça,
pour moi.
Raté.
Anne, vous avez parlé de l'Italie. En France, ça se passe comment ? On n'a pas le droit de voler de sable non plus sur les plages ?
Alors effectivement, on n'a pas le droit non plus. C'est passible de 1 500 € d'amende. C'est dans le code de l'environnement. C'est une atteinte au domaine maritime. On n'a pas le droit de voler du sable. On n'a pas le droit non plus de voler des galets, d'ailleurs. Il y a un seul sable qu'on a le droit de ramasser. C'est celui qui a été embarqué par le vent et qui se retrouve sur les routes. Celui-là, on a le droit de le prendre.
Il est chiant,
mais sinon,
celui-là.
Pas de sable dans les valises, s'il vous plaît.
Merci Anne Le Gall. Votre chronique aura-t-elle les faveurs de nos invités du jour, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, dont le film La vie scolaire sort en salle demain. Il vous faudra patienter pour le savoir. On continue de parler de la vie scolaire, mais pas que. Car Grand Corps Malade, il faut aussi évoquer ce nouvel album qui sort vendredi. Il s'intitule Collection. Il réunit en fait deux albums en un, c'est ça ? Un best-of et des inédits.
Oui, il s'appelle Collection 2003-2019. Donc oui, sur un premier album, il y a un peu le best-of des 6 albums. Et puis sur l'autre, il y a des inédits, des raretés parmi les tout premiers textes que j'ai fait dans des petits bars en 2003-2004 que je n'avais jamais mis en musique. Et puis après, il y a tous mes plus beaux duos. Voilà, j'ai eu la chance de faire des duos avec Charles Aznavour, Véronique Sanson, Francis Cabrel, avec Kerry James, Oxmo Puccino.
Comme il se la pète quand même. Il se la pète un peu, Grand Corps Malade. Je vous ai découvert il y a super longtemps. Vous étiez dans le spectacle d'Edouard Baird. Ouais. J'avais été soufflé ce soir-là, mais j'imaginais pas quand même la carrière que vous ferez
y compris dans le cinéma.
C'était en janvier 2006, c'était avant la sortie de mon premier album.
Ça nous rajeunit pas, tous les deux.
Cinéma, musique, vous dites, pour l'instant, j'ai pas envie de choisir, c'est un luxe absolu de faire ces deux métiers déjà, de faire un de ces deux métiers déjà, c'était génial, alors faire les deux, c'est le privilège suprême, mais la tournée, c'est irremplaçable, l'adrénaline de la scène, c'est unique. Traduction, si vous devez laisser un des deux, ça sera le cinéma. La scène, vous dites ça toujours.
Ouais, mais c'est vrai que je me pose pas la question de devoir en arrêter un. Donc
oui, c'est vrai que voilà, vous combinez les deux avec
ouais,
succès.
Tant qu'on me dit pas t'es nul là-dedans, arrête tout. Non, c'est vrai que j'ai la chance. Oui, la scène, c'est unique. Voilà, cette adrénaline-là, ça fait 15 ans que je fais de la scène, j'en ai besoin. Mais le cinéma, c'est bien aussi. L'adrénaline aussi d'un plateau de tournage, faire écrire des films avec son meilleur pote, tout ça. C'est
ton meilleur pote.
Ouais, t'es mon meilleur copain.
C'est un scoop européen, Lady Dir et le meilleur pote de Encore Malade.
Moi aussi.
C'est vrai. Oh putain, la classe.
Un bon moment. On mettra une petite musique d'émotion,
s'il vous plaît.
Et ça sera un beau podcast. Mehdi Idir, Grand Corps Malade, vous ne bougez pas.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue avec une belle histoire très émouvante, de retrouvailles en pleine mer et un décrochage régional un peu moins émouvant mais tout aussi palpitant dans les allées de la grande braderie de Lille, comme dirait Valérie Le Mercier.
J'espère que vous aimez les moules.
À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Grand Corps Malade est notre invité cet après-midi dans l'équipe est sauvage avec Mehdi Idir. Tous les deux vous signez La Vie Scolaire, votre deuxième film. Ça sort demain, beaucoup de pression. Pour l'évacuer, je vous propose de prendre la direction de la grande braderie de Lille qui s'ouvre ce week-end. Lille où on retrouve tout de suite le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour Lionel.
C'est donc la braderie de Lille qui arrive le week-end prochain. Comme tous les ans, on va ingurgiter des centaines de tonnes de moules, surtout ouais. Vous. Et pour la deuxième fois cette année, on va récupérer les coquilles de moules vides pour les transformer en carrelage.
Ouais. Ça vous embouche un coin.
Ah,
hein.
Ça m'embouche un coin. J'aimerais bien que vous m'expliquiez.
Alors, en fait, c'est une start-up qui est spécialisée dans la récupération et le recyclage, qui a passé un accord avec la ville de Lille déjà l'an dernier hein, pour que ces coquilles soient non pas jetées à la poubelle, mais récupérées à la fin de la braderie. Alors, concrètement, on va demander aux restaurateurs de faire un joli tas de coquilles vides sur leur trottoir. Et ces tonnes de coquilles vides, eh bien, elles vont être acheminées dans une petite usine de recyclage. C'est l'entreprise Ethnici qui se trouve à Roubaix, et que dirige donc Espérance Fenzi pour fabriquer du carrelage, mais aussi de la faïence murale, et puis des tables ou encore des tabourets.
Le process est établi et est maintenant validé par quasiment un an de production. Donc on a récupéré les coquilles de moules qu'on a hygiénisées, qu'on a broyées, et qui ensuite est assemblée avec d'autres matières premières secondaires, en l'occurrence du calcaire et un liant, pour en faire soit du carrelage, soit des objets, soit du mobilier.
Quand vous arrivez avec un échantillon, les gens ne sont pas tentés de renifler au cas où?
C'est systématiquement la première question. Justement, l'avantage d'avoir un échantillon, c'est que les gens peuvent sentir la matière. Qui ne sent pas la moule ou la marine?
Vous êtes sûr, Lionel? Quand même, ça sent pas un petit peu?
Non, je vous jure. J'ai vérifié. En fait, vous savez,
je reconnais bien là votre sens de l'investigation, Lionel.
La coquille de moule, c'est une matière première comme une autre quand elle est traitée correctement. Et c'est vrai que quand Espérance Fenzi est allée présenter son business plan au banquier, genre bonjour, récupérer. Bon, on l'a un peu regardé de travers, mais aujourd'hui, eh bien, il emploie 6 salariés. Il collabore avec un atelier d'insertion. Il a trouvé un véritable équilibre économique. Il a su donc se montrer convaincant. Et puis surtout, eh bien, ces produits, ils ont trouvé leur clientèle.
Et donc, il y a des gens qui achètent des tabouret, du carrelage en coquille de moule.
Voilà, il y a même des restaurateurs qui sont très fiers de posséder des plateaux de table en coquilles recyclées. Mais vous savez que sur la boutique internet d'Ethnici, vous pouvez même acheter des objets du quotidien, par exemple un pot à bougie. Et en fait, ce qui séduit les clients...
Il manquait une idée de cadeau pour Eva pour son anniversaire.
Ben, c'est tout trouvé.
C'est tout trouvé, c'est vous tout m'en trouvé. Ramenez un. Hein, oui.
Ce qui séduit, ce qui sera peut-être votre cas d'ailleurs, ce qui séduit les clients, c'est la couleur du produit et bien sûr la démarche écolo.
Il y a aussi la couleur. La couleur se révèle être gris, violet, puisque c'est de la blue mussel. Et puis, quand les gens voient le pot de bougie ou le mobilier, ça doit éveiller chez eux les souvenirs qu'ils ont de la braderie de Lille. Et on se rend compte que cette coquille de moule est pleine d'affect. On y est attaché, ça éveille plein de choses chez les gens. Et du coup, réussir à le faire a été un beau défi et un défi que les gens suivent.
Mais Lionel, ça représente quoi? Combien de tonnes de coquilles de moules va-t-on récupérer, par exemple, cette année?
Alors, environ 4 tonnes, hein, c'est l'estimation.
C'est énorme.
Ouais, ouais. Et avec ces 4 tonnes de coquilles, on peut fabriquer 400 mètres carrés de carrelage. Alors, il faut savoir qu'au total, hein, lors de la braderie de Lille, on engloutit 500 tonnes de moules sur deux jours dans les différents restos de Lille. Vous ajoutez à ça les 30 tonnes de frites. Et l'objectif, c'est donc d'en récupérer encore plus. Et pour ça, il faut que les restaurateurs fassent sur leur trottoir des tas de coquilles les plus propres possibles pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop pollués, hein, en fait, par les plastiques ou les cartons.
Et on est très écolo, décidément, à la braderie de Lille. L'an prochain, en 2020, tous les gobelets, couverts et assiettes en plastique seront interdits, ni
oui,
plus ni moins.
Et j'ai même un autre scoop pour vous, Mathieu. L'an prochain, on va même, tenez-vous bien, expérimenter le recyclage de l'urine des visiteurs et des bras d'eux.
Lionel, qu'est-ce que vous avez bu? Vous allez trop loin, Lionel.
Non, je vous assure que c'est
vrai.
Réel. C'est inscrit noir sur blanc, d'ailleurs, sur le dossier de presse qu'on m'a fourni hier, et puis j'avais déjà eu l'information dans le courant de l'été. En fait, vous savez qu'en plus des moules frites, on boit beaucoup de bière, hein, à la braderie, et que la bière, c'est diurétique. Eh bien, à Lille, on réfléchit à un moyen de récupérer, de recycler les urines des visiteurs, évidemment dans les toilettes mobiles, hein, pour en faire de l'engrais qu'on utilisera pour les espaces verts de la ville. Et figurez-vous que ça s'est déjà fait, pas loin d'ici, dans un festival de musique rock en Belgique l'an dernier. Là, l'urine a été recyclée et, paraît-il, j'ai pas goûté, hein, elle a été transformée en eau potable.
Eh bien, à la vôtre, Lionel Gougelot, merci beaucoup pour ce partage. Yann Le Gall, vous vouliez ajouter quelque chose?
Et moi, j'ai croisé dans les rues de Nantes cet été des urinoirs, effectivement, donc pour les hommes en pleine rue, qui étaient en même temps des jardinières. Donc, il y avait un réceptacle et des plantes qui poussaient à côté. C'était aussi très circulaire.
C'est ce qu'on appelle la symbiose.
C'est très beau.
Merci beaucoup, Lionel Gougelot. Une bien belle histoire, en tout cas, que celle du recyclage des coquilles de moules.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue sur Europe 1 et justement, ne brisons pas cet élan écologique. Dans quelques instants, nous retrouvons Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise, pour Delice in Extremis, la chronique qui vous sauve la mise quand, à 6h moins le quart, vous réalisez que vous avez totalement oublié de faire les courses. Aujourd'hui, le programme est 100% récup et éminemment glamour, puisque nous allons vous apprendre à mitonner une bolognaise avec les restes de saucisses du barbecue. Bon, ça sauve la mise, mais c'est peut-être pas non plus le soir pour inviter vos beaux-parents. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures pour faire le plein de savoir sans pour autant risquer la méningite. 2 heures aussi d'une terrible compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 pour le titre très convoité de chroniqueur du jour. Sous l'œil impitoyable de nos invités arbitres, aujourd'hui on est ravis de passer l'après-midi avec Mehdi Idir et Grand Corps Malade, heureux papa d'un deuxième film dont on vous dit à raison le plus grand bien depuis tout à l'heure. Ça s'appelle La vie scolaire, ça sort demain. Et Grand Corps Malade, quand on sait la dimension autobiographique de votre premier film, Patient, où vous racontiez l'univers de la rééducation après votre accident, là, fatalement, on ne peut pas s'empêcher de se demander jusqu'à quel point ce film parle de vous. Là, cette fois, c'est plutôt l'histoire de Mehdi.
En fait, ouais, on a vraiment pris nos souvenirs. Donc, il y a plein de scènes qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à Mehdi.
Ah, mais, lesquelles, mais, on ne peut pas tout dire.
Mais pour le personnage principal, en fait, ouais, c'était Yanis. Pas une volonté de départ. Mais quand on a créé ce personnage de Yanis, mais quand on a voulu lui donner une profondeur, un vécu, une histoire, une famille, écrire la Bible du personnage, on s'est dit, bon, bah, pourquoi inventer?
C'est le collégien.
Et là, ouais, c'est le rôle principal.
Il y a beaucoup de collégiens dans ce film, Eva. Mais c'est le collégien. C'est le collégien. Vous avez l'air du mal.
Grand Corps Malade, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Il y a une héroïne, en plus, j'aimerais bien citer Zita Enro qui l'interprète,
là,
qui l'incarne et qui est absolument formidable.
Je crois
qu'elle
n'a pas laissé indifférent notre ami Jean-Philippe Ballas ici présent aussi, visiblement. On peut le dire, Jean-Philippe, hein, votre femme écoute, mais allez-y quand même.
Je la trouve lumineuse dans le film et je trouve très futée d'avoir mis une CPE comme personnage central du film.
Ça, c'est nouveau sur les films sur l'école, oui, c'est vrai, tout à fait. Le film met en scène des élèves doués, dont Yanis, attachants, mais souvent difficiles aussi. Vous étiez quel type d'élèves tous les deux?
Moi, j'étais...
Vous étiez Yanis.
Et voilà. Du coup, c'est facile de répondre. Mais ouais, un petit peu comme ça. Un petit peu feignant, je dirais. Et indiscipliné. Mais c'est parce qu'effectivement, comme le personnage, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Voilà, une fois que j'ai trouvé ma voie, là, j'ai commencé à beaucoup travailler.
Et vous, encore malade?
Ouais, un peu pareil. J'avais des
grande
facilités,
gueule,
comme disent les professeurs. Et du coup, je me reposais pas mal là-dessus. J'étais assez feignant, j'étais pas bosseur. Et je ramenais quand même pas mal de petits avertissements de conduite, surtout au collège, à la maison.
Ouais, moi, je l'ai eu tout le collège. J'ai fait le grand chelem.
Grand chelem. Ouais.
Vous avez connu les conseils de discipline?
J'en ai eu un, ouais, une fois.
Mais vous avez jamais été viré?
Non.
Du lycée.
Visiblement, vous ne l'aviez pas dit, mais.
Du lycée, vous avez été viré, ça n'existe pas. On ne peut pas se faire virer du lycée.
Pour mes désirs, oui.
J'étais viré du lycée. La proviseure m'a dit devant ma mère, il ne fera jamais rien de bien dans la vie. Et 5 ans après, 10 ans après, Ils nous ont invités pour qu'on projette le film dans ce lycée. C'était pas la même proviseur, mais
et imaginez que dans 10 ans, le lycée portera votre nom. Ça sera encore une autre étape de la reconnaissance. J'imagine. Est-ce qu'on touche pas là au cercle vicieux de la banlieue, pour le coup, à savoir que même si on est doué, même si on est brillant, on est un peu obligé, vis-à-vis des potes, d'être dur avec les profs, d'être insolent et d'être grande gueule?
Il y a peut-être un peu ça aussi, effectivement. C'est-à-dire que les jeunes s'engrainent aussi un petit peu, effectivement. C'est vrai. C'était un peu ça à l'époque. En tout cas, mais on le ressent aussi, et surtout dans la classe qu'on a voulu mettre en avant. Donc c'est une classe qui est un ghetto dans le ghetto, où là on met un peu les,
ceux qui
les
n'ont pas
pires
d'option,
élèves, exactement, ceux qui n'ont pas d'option. Encore plus peut-être, ouais.
Et en même temps, je pensais pas que lié à la banlieue. C'est vrai que cette ambiance de groupe, où du coup...
Oui, il y a toujours une émulation.
Voilà, l'émulation de groupe pour faire rire tes potes et faire un peu le cake. Mmh. Et du coup, essayer de chahuter le prof, c'est un peu partout, je pense.
Alors, Mehdi Idir, Grand Corps Malade, j'ai insisté sur la qualité du casting, sur le jeu extrêmement juste de ces gamins. Dommage tout de même que vous ayez laissé passer certains talents. Je pense notamment à Eva Rock, ici présente. Elle s'était présentée aux auditions pour démontrer sa connaissance de la banlieue, de la street culture. Elle avait même laissé une bande démo.
Yo, le rap, c'est pas du tout ma cam. Je préfère un son qui a plus d'âme. M-A-2-T au micro. Eva lui fait les gros yeux. Mais rien à faire pour Mathieu, c'est un film ou un mafieux.
On Yo vous rappellera, Madame Rock, avait dit Mehdi, vous ne l'avez pas fait. Et ça, Mehdi, je trouve que c'est assez dégueulasse. Le talent était pourtant là.
Bah, pour la série, bravo. Sur le milieu du stand-up, mais Eva, je suis
dispo. Eva, il faut peut-être voir, parce que même moi, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, quand est-ce que vous avez enregistré ça? Pourquoi?
Mais c'était en direct la saison dernière. Bah,
d'accord,
oui.
Bon, ça ne vous excuse
c'est
pas.
C'est une catastrophe.
Heureusement, Eva n'est pas rancunière, puisqu'elle va à présent vous faire gagner 17 minutes ce soir. Chaque soir, on perd en effet, c'est une statistique de l'Université d'Oxford, 17 minutes à tâtonner sur l'écran d'accueil de Netflix ou OCS ou MyCanal, littéralement sidéré par l'offre pléthorique qu'on a aujourd'hui sur toutes ces plateformes. Alors, faites comme moi, renoncez à tout libre arbitre, faites confiance à Eva.
Bah, je vais essayer de vous convaincre en tout cas de regarder un documentaire événement, et ça se passe sur Arte, vous pouvez aussi le regarder sur le site d'Arte. On parlait de déterminisme social tout à l'heure, dans les années 70, si vous naissiez en Sicile, notamment à Palerme et dans le village de Corleone, la probabilité que vous soyez lié un jour ou l'autre à la Cosa Nostra ou autre clan mafieux était quand même très très élevée, et c'est ce que va vous raconter Corleone, le parrain des parrains, sur Arte ce soir, donc à 20h50. C'est Mosco Levi Bucco qui retrace dans ce film remarquable en deux parties le destin de Toto Riina, qui a été le parrain des parrains. Alors, un fils de paysan, hein, intronisé à 26 ans dans la Cosa Nostra, et qui va en devenir son chef de file en faisant exécuter des centaines de personnes pour parvenir à ses fins, et ce dans des conditions absolument mais effroyables. La description de certaines scènes de meurtre, sincèrement, rappelle des séquences de Game of Thrones, sauf qu'on est loin d'une fiction. Et pour comprendre cette guerre, le réalisateur français s'est longuement entretenu, alors avec des magistrats, avec un commissaire, mais aussi avec ceux qui ont travaillé aux côtés de Toto Riina, comme l'adjoint de Riina, qui raconte son quotidien de tueur.
Selon les circonstances, j'étais capable de commettre un meurtre et ensuite de rentrer chez moi, de me doucher, de me changer, donner mes vêtements à ma mère pour qu'elle enlève les indices. Puis aller au bar, rencontrer des amis, manger une pizza, m'amuser. Ça ne me posait pas de problème.
Et l'homme poursuit son récit en racontant à quel point il était aussi impliqué dans la vie locale, prêt à aider les uns et les autres pour le moindre service, notamment à commencer par le curé à qui il donnait régulièrement de l'argent pour l'aider. Une sorte de super assistant social, sauf que l'assistant social a quelque peu quelques limites.
Ça ne me posait pas de problème. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Même si le lendemain je devais tuer la personne aidée, je le faisais.
Alors, des mafieux repentis que vous venez d'entendre, qui ont changé d'identité, qu'ils soient ou pas en prison. Hein. Certains sont encore en prison, condamnés pour la plupart après ce qu'on a appelé le maxi-procès. C'était en 1986. Ça avait nécessité la construction d'une salle d'audience assez grande pour accueillir la centaine de prévenus. Un tribunal directement relié à la prison, d'ailleurs. Des mafieux, donc, qui se donnent un peu bonne conscience, vous voyez, avec ce double discours. Mais pour le procureur Ayala, qui avait notamment agi en 1986, pas question de leur accorder une seconde de crédit. Écoutez ce qu'il en dit.
Ça, c'est la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Ma vision, c'est que ces gens sont des merdes. Sans exception.
Des merdes, voilà. Après des années de procès, après 24 ans de cavale, Toto Riina a été arrêté. Il a passé 24 ans en prison, il est décédé en 2017. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'au-delà de son histoire, le documentaire est réussi parce qu'il raconte aussi le système politique et judiciaire en Sicile et en Italie. Et puis parce qu'il montre la cruauté de ces hommes avec qui la négociation n'existe pas. Hein. C'est la vie ou la mort, et surtout la mort. C'est glaçant, c'est stupéfiant, ça nous scotche devant l'écran pendant plus de 2 heures. C'est à voir sur Arte ou sur le site d'Arte.
C'est ce qu'il nous fallait pour ce soir. Emballer, c'est peser. 17 minutes de gagner, j'ajoute écoute Eva, non par flagornerie, mais une fois de plus par goût. Qu'en VOD, vous pouvez également découvrir le premier film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, Patient, qui, pour user d'un euphémisme, n'était pas dégueu non plus.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, continue et le suspense devient presque insoutenable. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Anne Le Gall, Anissa Mbida, Mathieu Charrier ou bien peut-être notre ultime concurrent Jean-Philippe Ballas qui tentera le tout pour le tout avec l'histoire bouleversante de retrouvailles en pleine mer à bord d'un bateau de Médecins Sans Frontières. Cela dit, aussi bouleversante soit-elle cette histoire, je vous connais, ne vous coupera pas l'appétit. Et comme je ne doute que vous avez oublié de faire les courses, Olivier Pouls vous dira comment improviser une petite recette de Derrière les Fagots en recyclant les restes. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage entre dans cette dernière ligne droite avec Eva Rocan, Le Gall, Jean-Philippe Ballas, nos invités d'honneur Mehdi Idir et Grand Corps Malade pour leur film La Vie Scolaire qui sort demain. Depuis 16h, les meilleurs journalistes d'Europe 1 rivalisent d'ingéniosité pour vous livrer cette info, cette histoire que vous aurez à cœur de raconter ce soir à vos proches. Un seul aurait gagnant évidemment, votre culture générale. Qui décrochera la timbale ? Vous votez via Twitter et Facebook. Il reste à découvrir un dernier candidat, un pilier de la rédaction d'Europe 1 que vous retrouvez chaque matin dans le 6-9 de Mathieu Béliard. Voici Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe qui devrait nous bluffer, puisqu'en vieux briscard de l'info, il sait ce qu'il faut pour finir en beauté une émission. Anne ?
Du cannabis ?
Non, Anne, non, pas du cannabis. Non, Eva, s'il vous plaît, pour finir en beauté une émission, il faut...
Bah moi, j'aurais dit le sextoy.
Non, mais non plus, il faut de l'émotion. Or, de l'émotion, mon Jean-Philippe, votre chronique n'en sera pas avare.
Je vais vous parler de Mary-Jo Frolley. Elle est infirmière, elle vient de Californie, sauf que c'est partout ailleurs dans le monde qu'elle exerce son métier. En Ouganda, au Sri Lanka, Sierra Leone, Mexique, Tadjikistan, parce que je ne vous ai pas dit, mais Mary-Jo est infirmière pour MSF, Médecins Sans Frontières. Et au début de notre histoire, elle travaille dans un village au Darfour. On est en 2004, les besoins évidemment sont énormes, et notamment cette nuit où une jeune maman débarque avec son fils de 2 ans, blessé à la jambe dans un bombardement. Mary-Jo va le soigner, elle va le sauver, avec les moyens du bord, un peu comme elle fait d'ailleurs quasiment 24 heures sur 24, avec des dizaines de patients, une mission vitale bien sûr, mais qui va brutalement s'arrêter parce qu'un villageois vient prévenir Mary-Jo. Un groupe armé prépare une attaque contre le dispensaire. Alors l'équipe des MSF a juste le temps de décarpir et le villageois, lui, ne survivra pas. Et on retrouve Mary-Jo 15 ans plus tard, toujours infirmière, toujours pour MSF. Alors cette fois, elle est en Méditerranée sur le pont de l'Ocean King. C'est un bateau humanitaire qui recueille des centaines de migrants naufragés au large de la Libye. Et parmi tous ces gens, y a un jeune homme qui intrigue un peu Mary-Jo. Il s'appelle Omar. Et Omar porte une cicatrice sur la jambe, une cicatrice très particulière. Alors Mary-Jo s'approche, elle discute. Et oui, les amis, ce garçon de 17 ans devant elle, c'est le bébé qu'elle avait sauvé au Darfour en 2004. Alors Omar confirme, lui, il était trop petit à l'époque, mais il se souvient que sa mère lui avait raconté l'histoire de cette infirmière très dévouée. Je vous laisse imaginer les retrouvailles entre ces deux-là. Et c'est pas tout, les amis, parce qu'il y a un autre jeune homme à bord du bateau. Il s'appelle Abdourahmane, et Abdourahmane est le fils du villageois qui avait prévenu l'équipe des MSF à l'époque, l'homme qui s'était donc sacrifié au moment de l'attaque. Alors, ça fait beaucoup, j'imagine, Mary-Jo, qui avait toujours regretté de quitter le Darfour si vite et de ne pas pouvoir remercier cette famille. Aujourd'hui, c'est fait. Mon devoir, mon privilège, c'est de les aider. C'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Alors, bien sûr, elle va essayer de suivre le parcours de Omar et Abdourahmane. Alors, deux jeunes qui vont tenter leur chance en Europe aujourd'hui, comme c'est le cas pour beaucoup de migrants. Je trouve quand même que c'est une histoire qui en dit long sur le parcours insensé de ces gamins, parfois depuis l'enfance, et puis qui en dit long aussi sur le boulot remarquable des humanitaires sur le terrain.
Jean-Philippe Ballas, vous avez réussi à me tirer une larme, ce qui, connaissant mon degré de cynisme, est un exploit. Vous n'oserez quand même pas une question vache, Anne Le Gall, si ?
C'est compliqué d'être vache après c'est ça. Compliqué. En plus, vous nous servez un scénario de film, là.
Alors, ça pourrait faire un film.
Non, mais ce qui est terrible quand même, c'est la répétition du scénario. C'est-à-dire qu'à 2 ans, au Darfour, ce jeune homme est victime de la misère. 15 ans plus tard, il fuit la misère. Et 15 ans plus tard, cette infirmière est toujours engagée dans l'humanitaire. Alors ma question, c'est... quel est le secret de cette femme ? Est-ce que vous avez enquêté sur son parcours ? Quel est son secret pour maintenir un engagement dans l'humanitaire durant toutes ces années ? C'est quoi son
parcours ? C'est une bonne question. Alors, on en croise parfois en reportage sur le terrain des humanitaires. C'est vraiment des
gens à part.
C'est vraiment des gens à part. Ils n'ont plus de maison, en fait. Leur maison, c'est le monde entier.
Mais ils n'ont pas de vie, surtout. Enfin, pas de vie personnelle.
Ils ont une obsession. Obsession, c'est aider les autres. Ça devrait pouvoir nous inspirer, d'ailleurs, parfois.
Ouais, et ne rien attendre en retour, je pense, surtout. C'est ça qui les fait tenir. Non, mais sincèrement.
Ça, c'est un peu votre devise vis-à-vis de moi, Eva.
Oui, ça c'est heureusement, d'ailleurs.
Ça, c'est bien joué. Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Cette belle histoire aura-t-elle touché au cœur nos invités, Grand Corps Malade et Mehdi Idir ? La réponse ne va plus tarder maintenant. Ce sera juste après Délice in Extremis, votre recette dernière minute pour épater vos proches ce soir.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, mais d'abord, une ultime parenthèse musicale avec un type que personnellement, je commence à trouver un peu agaçant, car il a tous les talents Pour son premier film, qui était déjà pas mal, il aurait pu au moins avoir la politesse de foirer la BO. Pensez-vous qu'il l'ait fait ? Eh non, espoir adapté, Grand Corps Malade sur Europe 1.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations.
Espoir adapté, extrait de la BO de Patient, le premier film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade qui sont les invités d'Europe 1 cet après-midi.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h, Mathieu Noël.
Demain, messieurs, c'est la sortie du deuxième, La vie scolaire. Un mot peut-être du personnage central du film, la CPE, interprétée par Zita Enro. C'est un peu le problème de votre film. Non seulement les acteurs amateurs sont bons, mais les pros sont géniaux aussi. Cette fois, ce n'est pas des nominations que vous allez ramener des Césars. Là, c'est la statuette, là, concrètement. C'est ça que vous espérez.
Dieu vous entende.
Non, parce que là, toutes les cartes sont dans vos mains pour cette statuette.
Merci beaucoup, Anna Zita Enro. Pour tout vous dire, on voulait pas l'avoir en casting au départ parce qu'elle était
trop
déjà un peu trop connue pour nous. On aime bien mettre en avant des nouvelles têtes. Et puis là, on trouvait pas notre Samia. On s'est dit avec notre directeur de casting, David Bertrand, allez, voyons Zita quand même. Et là, elle nous a embarqué tout de suite. Elle a fait deux scènes du film et on s'est dit ok, bon, c'est sûr que c'est elle et on est vraiment content de l'avoir prise.
Elle nous a pas mal embarqué aussi, surtout, je le rappelle, pour sa femme. Jean-Philippe Ballas. Moi, j'y crois en tout cas. En attendant les Césars, je vous présente un personnage digne d'un film d'Audiard. Parmi ses répliques les plus célèbres,
le travers de porc, j'adore ça, c'est grâce à croustille vite, j'en ai mangé beaucoup.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour toute la bande.
Vous êtes où cet après-midi ?
Eh bien je suis aux portes du Morvan, en Bourgogne, en villégiature gastronomique, voyez-vous.
Il y en a qui ont la belle vie.
Et je me suis arrêté dans une petite ferme auberge, en fait la boutique d'une ferme auberge qui est située à Semur en Auxois, ça s'appelle la ferme auberge de la Morvandelle, et ce qui est fantastique dans cette petite boutique, c'est qu'on ne trouve que des produits locaux, bien produits par des paysans responsables et qui nous offrent beaucoup de qualité. Je me suis laissé séduire, évidemment, vous me connaissez.
Ben, je vous connais, mais quelle recette vous nous proposez pour ce soir ? Parce qu'on ne va pas tous pouvoir se rendre à Saumur en Auxois.
Non, c'est vrai, vous êtes les bienvenus, cela dit. Alors, j'ai acheté des saucisses, figurez-vous. Alors, j'ai pris un petit peu de merguez, un petit peu de chipolata, des saucisses aux herbes. Mais la saucisse au barbecue, je vous avoue que j'en ai mangé, je pense, l'équivalent de la distance Dijon-Paris cet été. Donc, je commence à être un petit peu fatigué.
Je visualise, Olivier, et je n'ai pas envie de visualiser ça.
Donc je commence à être un petit peu fatigué et je me suis dit qu'il fallait préparer ces saucisses de manière un peu différente et je vous propose un truc hyper simple que vous allez pouvoir refaire bien sûr vous aussi avec des saucisses que vous aurez achetées chez le boucher près de chez vous. C'est une bolognaise de saucisses.
Une bolognaise de saucisses. Racontez-nous
c'est,
ça.
On change juste le steak haché avec les saucisses, quoi. C'est tout.
Ben en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va enlever la peau de la saucisse, la membrane qui la tient, le boyau. On récupère la chair de toutes ces saucisses. Alors, je vais mélanger un peu de saucisse aux herbes, un peu de chipolata, un peu de merguez, parce que ça donne de la puissance, ça donne du goût. Et puis, ben, je vais travailler ça dans l'esprit d'une bolognaise classique. Donc, faire revenir des petits oignons, une petite pointe d'ail, une carotte que j'aurai émincée. Je vais faire revenir ensuite ma chair à saucisse dans ce mélange, de manière à commencer à la cuire. Et puis, bah, quelques belles tomates, un joli coulis de tomates qu'on aura fait avec les tomates de saison. Et on va laisser mijoter ça tranquillement, avec là aussi quelques herbes, un peu d'origan par exemple, pour donner du goût, même si le goût, on va déjà le trouver dans les saucisses aux herbes. On va laisser mijoter ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de prendre l'apéro et de cuire ses pâtes. Et vous allez avoir une bolognaise un peu originale, relevée par le goût de toutes ces saucisses.
Eh bien, c'est magnifique, Olivier Pouls, avec Eva.
Envie, hein.
On va se jeter sur cette recette, comme certainement nos auditeurs. On vous retrouve demain. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Je sens que Grand Corps Malade et Mehdi Idir sont en train de croiser les doigts pour qu'il leur reste quelques chipots au congèle.
Europe 1.
L'équipe est sauvage. Cette palpitante compétition mettant en prise les meilleurs éléments de la rédaction d'Europe 1 touche à son terme. Dans quelques secondes, les résultats seront dévoilés. Nous connaîtrons le chroniqueur du jour que vous aurez choisi. S'agira-t-il de Jean-Philippe Ballas, Anissé Mbida, Mathieu Charrier ou encore Anne Le Gall ? Anne, n'oubliez pas que le vote de Grand Corps Malade compte triple. C'est peut-être le moment de lui dire quelque chose de fort.
On t'embrasse très fort. Bisous, bisous.
Ah, ça peut effectivement rebattre les cartes. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours Europe 1, l'équipe est sauvage s'achève dans le bruit et la fureur. Deux heures d'une compétition journalistique de haut vol qui aura vu s'affronter les meilleurs reporters d'Europe 1. Qui va remporter la margoulette ? Mehdi Idir et Grand Corps Malade qui étaient avec nous pour la sortie de leur film La vie scolaire demain en salle ont une voix et pas des moindres. Puisqu'elles comptent triple, ils ont chacun une voix qui compte triple. Attention messieurs, vous avez quatre contrats de travail entre vos mains. Alors Mehdi, Grand Corps Malade, concertez-vous. Ne laissez pas les pots de vin certainement proposés par Mathieu Charrier obscurcir votre jugement et dites-nous qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour.
Grand Corps Malade.
Alors, c'est presque trop facile de voter pour l'histoire de l'humanitaire. Elle était très belle, merci, mais c'est presque trop facile. C'est presque, eh oui, presque trop attendu. J'ai adoré vraiment l'histoire sur on va manquer de sable, je ne savais pas. Donc, c'est même grave, mais je ne vais pas voter pour vous. c'était super intéressant. Pour Louis de Funès, je trouve ça un peu facile d'aller dans un musée pendant ses vacances et du coup, ramener
une chronique.
Parce
qu'en plus, il était en vacances là-bas, il faut le dire, quand même, auditeurs.
J'ai pas encore fini la chronique sur le film qui doit passer demain.
Ça peut changer. Je vais voter pour Anissé et pour cette histoire d'Instagram qui du coup pollue des petits endroits touristiques. Déjà parce que j'ai découvert aussi cette information et en plus parce qu'il m'a dit que j'utilisais très bien Instagram et que j'enlevais la géolocalisation, c'est très dur à dire. Et voilà, du coup, je peux faire de la pub pour mon compte Instagram. C'est du coup pour ça que je vais voter pour Anissé. Bravo.
Bravo Anissé Mbida. Mehdi, qui avez-vous choisi?
Je peux pas voter pour Anissé parce qu'on va nous accuser de racisme anti-blanc, donc voilà, on va dire qu'on est communautaire, etc. Je vais pas faire ça. Ce monsieur, effectivement, pendant ses vacances, à un moment donné, il était en galère, s'est dit « Putain, la rentrée, c'est dans deux jours, merde, il y a quoi à côté ?»
C'est tellement ça, Mehdi.
Louis de Funès, je sais que ça s'est passé. C'est comme ça. Cette histoire est magnifique,
l'histoire
digne d'un film, vraiment. C'était émouvant, mais j'ai appris plus de choses.
Avec Anne Le Gall, voilà, 3 points. Pour
le sauve.
3 points pour Anne Le Gall.
J'ai vu le sauve.
Et les gardiens du sable. Moi, j'octroie mes points. Anne Le Gall. Ah. Je trouve que cette histoire du sable,
ça me touche.
Quand vous me l'avez vendue, je me suis dit oh là là, ça c'est tout pourri. Et en fait, on apprend quelque chose effectivement d'intéressant que je ne connaissais pas.
C'est vrai que sur le papier, c'est tout pourri.
C'est vrai que sur le papier, c'est tout pourri.
Mais en fait, voilà, c'est l'info la plus importante.
Eva, nos auditeurs.
C'est Anissé qui a gagné et qui marque un point. Avec 30%.
Un point pour Anissé, vous partez avec même 4 points, ce qui est énorme. Mais c'est Anne Le Gall, la grande championne du jour. Bravo Anne Le Gall pour ce sujet. Sur le merci, sable et les gardiens du sable et le sable qui disparaît de nos plages.
En plus, les amis, tu préfères le saut ou le,
alors,
le
petit râteau?
C'est à moi, Mehdi, que vous proposez?
Oui.
Ah, je préfère le petit râteau, si vous voulez bien. Merci.
À défaut d'en prendre un de râteau.
Oh, c'est adorable. Mehdi,
merci
beaucoup.
Un râteau.
Excellent.
Mes amis, c'était la deuxième édition de l'équipe sauvage avec ma complice Eva Rock qui doit être en train de se dire...
J'ai signé pour un an, bordel.
Non. Quelle aventure passionnante que celle que nous attend cette saison. Merci à Mehdi Idir et Grand Corps Malade, vraiment un merci sincère, talentueux réalisateur de La Vie Scolaire, un film à découvrir dès demain en salle. Merci à la Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Anne Le Gall, Anissé Mbida, Jean-Philippe Ballas, Mathieu Charrier. L'équipe sauvage revient demain 16h pour 2h d'allégresse informative.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe sauvage.
Mathieu Noël.